voilà, alors je voulais prendre l'antenne juste avant que Thomas fasse l'annonce pour vous annoncer le concert de ce week-end et du sport. J'ai juste démonté un micro d'une manière un peu violente. Bon, on y va. Bonjour et bienvenue. Donc, les concerts de ce week-end sur Toulouse, si vous avez la chance de nous écouter en direct. Gato Preto est invité par Gacha Feta. C'est au bar Le Connexion Live dans le centre-ville. C'est à partir de 21h. Demain, toujours dans le même bar, Spinto Band et Kilter Kaspern, c'est à 20h. Metz est en première partie. Sunshine Parker, Messil Metz, c'est à la Dynamo. C'est à 20h30. Et Magnétique, suivi de John Spencer Blues Explosion, c'est au Bikini à 20h, donc la soirée de demain dimanche.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 9 février déjà 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jano Dead. Et à 17h, FMR scelle l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le débat polémiste que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Alors ce qu'il y a de, je te coupe, c'est ouais. Que comme nous avons affaire à un très jeune jury, c'est qu'on n'est pas obligé de préciser que ce n'est pas l'animateur télé Jacques Martin, puisqu'ils ne connaissent pas l'animateur télé.
Oui,
ça c'est très pratique en fait.
Oui, effectivement.
Si
Moi aussi je le connais.
Ah d'accord, bon, mais honte à moi alors. Je me fais faire ça en direct, ok.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Il est en place ton micro du sport, il va pas tomber.
Non,
t'es
mais
sûr
du sport, faut pas non, le mettre de mauvaise humeur.
Il faut pas le toucher.
Il faut pas le toucher. Bah, prends le verre. Prends le verre, t'emmerdes pas.
Non, mais je suis
le verre, ça porte malheur.
Va dire ça à un Irlandais.
Non, mais lui, il parle des pieds noirs, c'est pour ça. Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 338, il me semble. Bonjour et bienvenue. Ultimatum est revenu.
Hey,
Veni, Vidi, Victory.
Ouais, avec
Polémique.
Avec une belle crève charentaise. C'est trop bien. Salut Daskritch, salut du sport.
Salut.
Content d'être revenu. Salut les auditeurs.
Content d'être revenu. Parce que t'en avais marre ou t'aurais pu y rester un peu plus longtemps?
Ouais, en fait. Mais ouais, mais on est pas chômeurs. On a du boulot en rentrant aussi. Donc non, il fallait que je revienne quand même.
Oui, je sais, c'est pour ça que pour une fois je n'y étais pas. Et j'ai oublié de brancher un truc, tu vois. Hop, en direct, on branche la mécanique et tout le reste.
Est-ce que cette émission en direct du Conseil Général de la Charente vous a plu?
Je peux pas répondre.
Oui, impeccable.
Je peux pas répondre pendant que je suis en train de bricoler.
Pas mal.
Bon. C'était juste dommage, effectivement, pour les premières minutes d'incident technique. Et qui quand même a fait l'effort de me remplacer, d'aller sur place, il a pas pu y rester. Alors que lui, franchement, voilà quoi. Là, quelqu'un qui a été très proche d'une certaine bande dessinée à une époque. Et je pense que franchement, ça a dû le travailler quand même de ne pas en profiter.
Merci à Kinou de t'avoir remplacé, Xavier, au micro et à la réalisation de cette émission de la semaine dernière. Alors je vous encourage d'ailleurs, amis auditeurs, à réécouter l'émission si vous nous écoutez aujourd'hui en podcast, à réécouter l'émission précédente, puisque nous allons revenir sur certaines choses abordées lors de l'émission précédente pour développer un peu la suite des événements aujourd'hui, puisque l'affaire ne s'était pas arrêtée là, l'affaire de la désignation du Grand Prix du Festival d'Angoulême. Et oui, je sais, oui, c'est une lassitude, on souffle. Parce que oui, on est en plein dedans encore.
Non, mais il y en a marre. 3999 amendements, on n'est pas fini. Il reste encore 253 heures de débat. Peut-être que ça passera à la nuit de mardi. Ensuite, il faut que ça passe au Sénat. Puis ensuite, en commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Non, franchement, on chie, c'est un débat d'un autre âge. Mais bon, ceci dit, donc.
Au programme de cette émission aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ?
Eh, ma foi, je crois qu'on est le pied entre deux festivals, puisque s'ouvre cette semaine à Toulouse le festival Medinazia.
Oui, d'ailleurs, il s'est ouvert, puisqu'on est.
Ça avait commencé déjà cette semaine à la Cinémathèque de Toulouse, c'est vrai, avec une programmation qui était plus qu'intéressante de ce côté-là, et ça commence depuis hier, si je ne me trompe. Et on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça va être méga chaud, je pense.
Oui, c'est un festival, on parle du festival Medinazia, qui se déroule jusqu'au 23 février 2013. Et c'est un festival donc consacré aux cultures d'Asie, et cette année, plus particulièrement sur le Japon. Voilà, donc le Japon, alors évidemment, c'est un festival qui mêle tous les supports de création. Il y a des expositions, il y a du cinéma, il y a du cinéma d'animation, du documentaire, des rencontres. Là, par exemple, je tombe sur la rencontre avec Yoshi Oida, qui est suivi en fait du film The Pillow Book de Peter Greenaway, le réalisateur anglais, mais sur Pillow Book, donc c'est sur la calligraphie japonaise. Donc on a également on a pas mal de un programme assez chargé hein, puisque c'est sur donc du 7 au 23 donc c'est sur 16 jours donc c'est pas mal hein, ça permet de faire un bon petit panorama en matière de cinéma donc nous avons le cinéma par exemple l'ABC qui programme des films de Katsuya Tomita, on a le jeune public qui est pas oublié non plus hein, puisqu'on a Pompoko d'Isaoka Takahata dont on n'ira jamais assez de bien dans cette émission. Qui est programmé au cinéma ABC également. On a Le Château dans le ciel de Miyazaki, Les Enfants Loups, le dernier film de Mamoru Hosoda, donc pas mal de prog intéressantes. On a une nuit japanime, Colorful, ainsi que Piano, l'excellent Piano Forest pour les mélomanes, les amateurs de piano, mais c'est une splendeur ce dessin animé de Masayuki Kojima, ainsi que Origin, qui est plus dispensable. Moi je l'ai découvert en DVD, celui-là, et bon, voilà. On a les ciné-goûtés pour les tout-petits, ça c'est pas mal. Pogno sur la falaise dans le ciné-goûté.
Oui.
Ah bah oui. Mercredi 20 février, 14h30, au cinéma Le Central de Colomiers. D'ailleurs, on salue Marie Vassor qui, si elle nous écoute, comme nous avions reçu dans cette émission.
Dernier, d'ailleurs, pour le même festival.
Voilà, Pogno sur la falaise suivi de Kiki la petite sorcière. Voilà, donc les ciné-goûtés, c'est une bonne idée pour les parents. Bon, la météo, il faut qu'elle soit là aussi pour sortir les petits, mais bon, aller s'enfermer dans une salle avec un petit goûter après, je trouve que c'est une bonne initiative. Voilà, donc il y a le jeune public qui est aussi attendu dans des musées pour voir des expositions de dessins d'hommes. L'enfant qui dessinait les chats, conte populaire japonais. Donc voilà, vous avez une plongée dans la culture japonaise, tout support, dans les librairies, les cinémas, des salles d'exposition, c'est vraiment très intéressant.
Et plus d'informations sur le site de la radio www.radio-fmr.net ainsi que dans les programmes impromptus, c'est-à-dire la tranche 12-13 en semaine et 17-19. Et on repartait dans nos charentaises.
Oh, excellent! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait l'enchaînement avec la bande dessinée ou est-ce qu'on fait l'enchaînement avec le Japon ? On fait l'enchaînement bande dessinée, débriefing du festival direct ?
Oui, la présidence, tout ça. Enfin, la présidence passée.
Alors, effectivement, donc, cette année, le festival, c'était la 40e édition. Donc, 40e édition dit, évidemment, événement exceptionnel. Donc, le président... alors, je vous parlerai de ce que j'ai vu. Donc, par exemple, l'exposition du président Jean-Claude Denis. Donc, je ne l'ai pas vu. Alors, exceptionnellement, cette année, ça ne se déroulait pas à la Cité de Bande Dessinée, mais il avait fait son exposition dans un lieu annexe qui était dans le centre. Cette année, le bâtiment...
La raison est un froid.
Oh, il fait,
c'est glacial.
C'est vrai qu'il fait froid, c'est l'hiver.
Entre le musée de la bande dessinée et l'organisation du festival.
Voilà. Le bâtiment. Alors, pour les connaisseurs du festival, les expositions à grande échelle, certaines projections en avant-première aussi se déroulaient dans une immense salle en contrebas du festival qui était le bâtiment Castro, qui était sur les rives de la Charente. Cette année, il a été rebaptisé Vaisseau Moebius. Donc voilà, l'assemblée. Alors, petite anecdote rigolote, c'est que quand vous... Bon, moi je suis l'homme qui a le moins le sens de l'orientation de la Terre, donc ça fait 9 ans que je vais au festival.
Non, je suis en bonne partie, je suis bien placé face à toi.
D'accord. Donc je me pointe, donc je cherche le fameux, anciennement le baptisé le bâtiment Castro, qui est donc le vaisseau Moebius cette année. Donc je me plante évidemment entre le Stella de la BD, le vaisseau, le bâtiment Castro et tout. Je me pointe finalement au bâtiment Castro et puis je dis bonjour, je cherche le vaisseau Moebius. Le quoi? Ça, c'est un agent de la sécurité, donc ils sont pas au courant du tout. Et puis je dis vaisseau Moebius. Ah non, il y a pas ça ici. Je regarde derrière lui, il y a marqué vaisseau Moebius en énorme. Je dis ben aussi on y est, regardez. le mec il passe toute la journée à bosser là, il a pas vu que c'était là. Bon bref.
Bon dommage.
voilà, bon, petite anecdote. Bon, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes personnels avec les membres de la sécurité cette année, mais bon, on n'en parlera pas au micro, on en parlera en off. Donc voilà, Jean-Claude Denis, président cette année. Donc 40e édition, donc ils ont frappé fort. Hein, milieu franco-belge, milieu manga, milieu comics. Donc des franco-belges, ils avaient invité rien que moins que Albert Uderzo. Pour le manga, c'était Leiji Matsumoto, créateur d'Albator.
Ah bah... Donc forcément, avec quand même cet impair fabuleux. Lors de la cérémonie officielle.
Alors en impair, je dirais plutôt un faute de goût hein, plutôt. Et puis alors, je finis pour la partie comique, c'était quand même Don Rosa qui a remis voilà le Picsou et Donald, qui a développé voilà le côté Klondike, mystique, tout ça. C'est quelqu'un qui a relancé la mythologie Picsou. Alors oui, Leiji Matsumoto lors de la cérémonie d'ouverture, personnellement ouais, c'est un truc qui m'a un peu dérangé, c'est que le festival n'a pas eu le temps de préparer un sujet vidéo, une présentation digne de ce nom du grand Leiji Matsumoto. Donc à la place, ils ont diffusé un extrait de Interstellar 5555 de Daft Punk.
Qu'il a réalisé, c'est vrai que c'est vrai, Albator, c'est plus Rintaro hein, qu'il avait réalisé.
Oui, mais on aurait pu faire un diaporama de ses planches, un côté un peu plus culturel, alors que là, on avait l'impression que ça s'adressait, qu'on avait une grande partie du public qui ne savait pas qui était Matsumoto et que pour leur parler, il fallait leur dire que c'était le gars qui avait fait le clip des Daft Punk.
En même temps, c'était un croisement avec la culture française et tout ça. Bon, c'était un...
Ça rappelle...
On essaie de se rattraper aux branches. Oui. Moi, personnellement, je tiens à dire une chose. C'est la dernière fois quand même que Benoît Mouchard, le directeur artistique du festival, puisqu'il prend les dessinées d'une maison d'édition et pas des moindres, Casterman. D'ailleurs, je viens de relire son bouquin sur l'ami Jacques Van Melkebeck, celui qui avait aidé Hergé à une époque et qui a été frappé d'incivilité en 45. Donc, il connaît bien hein, quand même... la mythologie Casterman, si je puis dire. C'est vrai que jusqu'ici, il était vu... on lui avait reproché quand même un certain élitisme par certains points, etc. Et là, il avait des... Franchement, de l'expo très grand public, que cela soit Uderzo, que cela soit l'expo Don Rosa, que cela soit Leiji Matsumoto, on ne peut pas lui reprocher ça. Loin de là. En plus, je connais bien Benoît de ce côté-là. On a à peu près le même âge. On s'est connus à une époque... avant d'entrer pratiquement ensemble, hein, finalement, dans l'actuel BD, il n'a pas collaboré très longtemps. Et à mon sens, quand même, c'était quand même une belle mission qu'il a réalisée.
Oui, cette
côté-là.
Année, Don Rosa.
Là, je l'ai regretté de ne pas y être.
Donc là, il était là pour des rencontres. Il y a eu une chouette expo au sein de l'hôtel de ville consacré à Mickey et Donald. Donc les origines, le développement, l'apport des différents auteurs qui ont. Enrichi l'univers de Mickey et Donald, c'était pas mal. Il y avait un espace projection, un mélange entre du vintage et un peu du ludique pour les enfants, donc ça c'était pas mal. Pour Matsumoto, il y avait un marathon diffusion de l'intégralité de la série Albator à l'espace Franquin, donc pour de 8h du matin jusqu'au soir. Matsumoto a quand même fait deux conférences. Pour contenter tout le monde, il en a fait une en début d'après-midi et une autre à 17h30 à laquelle j'ai assisté. Donc les deux présidés par Julien Bastide et avec un contenu à chaque fois inédit. C'était pas la même. C'était la Sud.
Et Julien Basti qui quand même
qui est
un très très bon historien du manga, je pense que là il s'en est donné à cœur joie, quoi.
Voilà, donc pour Matsumoto. Ensuite, dans les invités, il y avait, alors pour changer d'univers, il y avait également le footballeur Samuel Eto'o. Tiens, ça parlera plus à du sport, que j'ai loupé puisque j'étais en interview dans un autre lieu. Donc on nous a...
Je m'excuse, mais chaque année à Angoulême tu vois des stars comme ça. Une fois j'ai croisé Benoît Poelvoorde et je lui dis: ah, j'adore ce que vous faites, surtout votre manière de tuer. Et il fait: tiens gamin, tiens. Il m'étrangle devant, il y avait 4-5 caméras et les copains qui ont pris des photos, évidemment. C'était juste après c'était en 96, donc il était encore sur l'histoire du film. Mais c'est vrai qu'en général, on trouve, il y a des gens qui viennent, qui soit parfois ils sont invités par des éditeurs, soit parce que voilà, ils sont vraiment eux-mêmes fans de BD. Donc ouais, c'est amusant.
Ouais, donc là, en l'occurrence, Eto'o était là pour vendre signer des bandes dessinées inspirées de sa propre vie. Pénélope Bagieu qui s'exposait également.
C'est qui?
Qui? Pénélope Bagieu?
Oui, non, je déconne.
Ah, Pénélope Bagieu, donc auteuse de BD, Ma vie est tout à fait fascinante, Joséphine, et dessinatrice star de la blogosphère. Voilà, donc Pénélope Bagieu qui s'exposait au bar Les Cinq Sens, qui est l'un de nos QG préférés avec Xavier. Donc il y avait, c'était une plongée un petit peu dans l'univers de Pénélope, qui n'était pas vraiment inédit pour les amateurs de son univers, mais elle avait quand même fait l'effort d'une programmation musicale. Elle avait fait l'effort de mettre en scène aussi cette partie voyage dont elle parle dans son blog, à Londres, aux États-Unis, en Islande, avec une scénographie avec des petits meubles et des rouleaux de papier où on pouvait voir un peu ses strips. C'était un bel effort.
Surtout que c'est un très beau bar, donc c'est dans le vieil Angoulême.
Voilà.
Des grosses pierres calcaires, et c'est en sous-sol. Il y a deux caves successives, donc il y a deux étages de cave. On a des fauteuils qui sont vraiment moelleux, c'est vraiment cosy, c'est vraiment l'ambiance de club anglais. Et c'est vrai que du coup, en général, ce sont plutôt les étudiants des Beaux-Arts d'Angoulême qui affichent et tout ça. Il y a du mix, il y a du DJing dans une ambiance vraiment soft et calme. Et j'imagine, finalement, Pénélope Bagieu, ça devait aller de pair, je pense.
Oui, c'était très bien. Il n'y avait pas beaucoup de contenu inédit par rapport au blog, mais ça faisait plaisir pour les fans, et Dieu sait qu'elle en a. En plus, cette année, elle a été décorée de l'ordre des arts et des lettres par Madame la ministre Aurélie Filippetti.
Elle n'y connaît vraiment rien à la bande dessinée.
Alors, dernière exposition sur laquelle je voudrais parler. Donc, c'est une petite exposition qui fait partie des off d'Angoulême et qui était au Conseil Général. Il y avait 4 expos dans ce lieu-là. Il y en avait une qui était intéressante, c'était Haïku, chapeautée par les éditions Edola, qui avait demandé à pas mal de dessinateurs de dessiner sur les kimonos, sur l'univers japonais, sur la femme au Japon. C'était vraiment pas mal. C'était des illustrations sous verre, en grand format, qui étaient intéressant. Sinon, Fleur de Géant, parrainé par les éditions Scutella, donc c'est à partir d'un conte pour enfants qui s'appelle Fleur de Géant, qui est écrit par Nicolas Poupon, et qui en fait est censé donner envie de lire aux enfants. Alors ça raconte une petite fille qui devient souffleuse dans l'oreille d'un géant, parce que les géants en fait ils sont tellement grands qu'ils peuvent pas lire les livres, et donc c'est écrit trop petit. Donc il a fait monter dans son oreille, et l'oreille interne du géant, en fait, c'est une bibliothèque, en fait, où elle a un petit fauteuil cosy, où elle lui souffle, en fait, en lisant les livres. Et à un moment donné...
c'est mignon.
Oui, c'est mignon, et le géant fait la rencontre d'une géante. Et donc, finalement, la souffleuse est un peu délaissée, parce qu'il a autre chose à faire que lire des livres. Et alors, elle dépérit un petit peu dans l'oreille du géant, jusqu'au jour où elle voit que la géante a également un petit souffleur. Donc elle fait la rencontre de ce petit souffleur qui va la rejoindre dans l'oreille du géant, et ils échangent sur les livres. Donc cette exposition était pas mal parce que c'est une reconstitution de l'oreille interne du géant, donc les enfants pouvaient s'installer dans les petits coussins, essayer de lire le livre. Il y avait des petits jeux aussi ludiques pour les enfants où ils pouvaient compléter les visages des personnages du conte, et puis il y avait aussi des indications de l'auteur sur ce qu'il avait voulu dire, sur l'étape de fabrication du livre. C'était très intéressant. Donc voilà, ça s'appelait Fleur de Géant, et c'est en partenariat... Oui,
c'est vrai que primo, donc au Conseil Général de la Charente, c'est là où en fait l'émission Supplément Week-end est réalisée en direct, sur place. Donc on est toujours vraiment très bien accueillis par les équipes du Conseil Général et aussi par le jury de jeunes élus du Conseil Général des Charentes, Conseil Général des Jeunes des Charentes, donc ils font partie du prix Actua BD. Mais aussi c'est vrai qu'il y a des expositions justement off qui parfois, bizarrement, sont complémentaires et tout ça, et qui ont vraiment une programmation qui est vraiment intéressante, décalée. Et comme c'est un peu à part du reste du festival, hein, le Conseil Général, même si c'est dans le centre-ville, c'est un petit moment que l'on prend justement pour aller à part, pour s'éloigner un peu de la foule, et il y a vraiment de la découverte. Donc c'est vraiment intéressant.
Voilà, donc on rappelle la référence. Donc voilà, Conseil Général de la Charente qui accueillait donc parmi les expositions, voilà, Haïku des éditions Edola et Fleurs des Géants des éditions Scutella. Voilà, donc c'était dans ce lieu qui a vu l'exposition sur la BD turque et arménienne l'année dernière. Alors j'ai ramené des petits flyers et tout, donc si vous voulez jeter un œil tout à l'heure, j'ai la Gazette.
C'est sympa pour ceux qui n'ont pas la couleur.
Ouais, c'est super. Alors sinon, on va boucler quand même ce débriefing d'Angoulême avec la polémique concernant l'attribution du Grand Prix, puisque nous n'avons pas dévoilé l'identité.
Tiens. Je vais faire la bio du Grand Prix comme d'habitude. Donc né le 5 avril 1955 à Kyosu dans la préfecture d'Aichi, Akira Toriyama est donc
donc Xavier, c'est pas Toriyama. C'est pas Toriyama, c'est
elle. J'en ai rien à foutre, attends, bon d'accord, ok. Willem, Victor Willem, entomologiste belge spécialisé des coramboles et autres hexapodes primitifs. Non, c'est pas là ça. Jean-Pierre Willem, né en 39, médecin et anthropologue du sport. Pourquoi il veut me casser la gueule là tout d'un coup ? Anthropologue, non. Christophe Willem, voilà, de son vrai nom, Christophe Durier, chanteur français. Non, c'est pas lui.
Non. Il y a des moustaches.
Bon, Willem, dessinateur illustrement inconnu, vaguement satirique et hollandais.
Non, c'est pas bien de parler comme ça des dessinateurs d'Arakiri.
Il est totalement inconnu, on s'en branle ce mec, franchement.
Mais franchement,
il a juste été élu parce qu'il était connu par des vieux cons.
Exactement. Exactement. Putain. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Attends, tu es en train de casser le script. Le script, c'est que tu me casses la gueule. C'est ça, quoi.
Ah non,
il est en train de saboter le gag. Il est en train de saboter le script de l'émission. Bon, je suis obligé du coup de faire la bio telle que je l'ai vraiment écrite.
Allez,
en
vas-y.
Plus. Pour le coup, Willem alias Bernard Willem Oltrop, né aux Pays-Bas en 1941, ce qui fait qu'il a 71 ans, ce qui fait que au poste du Grand Prix de la ville d'Angoulême. Il est le plus vieux depuis René Pélos, qu'il a eu en 74. Wow. C'est dit.
Plus vieux que Pélos, je crois que Pélos était encore plus vieux, quoi.
Juste de quelques mois.
Vraiment. Parce que Pélos était déjà bien vieux.
Bien vieux à l'époque. Ouais. Commence ses premières bandes dessinées en 1966 et participe activement au mouvement Provo. Provocateur, hein, je tiens à signaler.
Ouais, c'est...
Qui est un peu le pendant du mouvement Panique, et vous allez comprendre pourquoi. Ainsi, il fonde le magazine God Nederland and Orange, qui est, je comprends pas du tout le néerlandais, mais ça veut dire Dieu, le Pays-Bas, et la couleur orange, hein, qui est un peu la couleur du pays, qui sera saisi suite à un dessin représentant la reine Juliana en pute. Ce qui n'est pas très sympa quand même pour une reine qui maintenant est retraitée. Un journal qui aura 9 numéros et où participera un certain Roland Topor, bien évidemment. C'est pour ça que je disais que c'était en rapport avec le mouvement Panique du sport supplémenté, ça m'aiderait beaucoup.
Oui, d'accord. Okay.
Il s'installera à Paris dans la suite des événements de mai 68. Signe dans l'enragé, participe au Harakiri hebdomadaire dès les premiers numéros tout en continuant à fournir la presse alternative de son pays natal. Dans Charlie Hebdo, du professeur Choron, il y tient une revue de presse surréaliste. Il y écrit directement en français, mais maîtrise très mal la langue.
Ouais, c'était assez rigolo, quoi.
Ce qui donne de nombreux spots qui seront laissés volontairement par l'équipe, soi-disant pour soudre de la gueule, mais lui-même n'en a pas pris ombrage et en a fait un petit peu sa signature. Il collabore régulièrement à Charlie Mensuel, dont il sera rédacteur en chef de mai à septembre avant le rachat par les éditions d'Argo. Libération au psychopathe à Métal Hurlant et à Charlie Hebdo lors de sa recréation ainsi qu'à L'Écho des Savanes. Il est l'auteur d'une quarantaine d'albums de bande dessinée, principalement chez des indépendants comme Cornelius ou Futuropolis. Hein, je ne parle pas du Futuropolis actuel, mais donc de la maison d'édition issue donc d'une librairie de bande dessinée. Au Requin Marteau, d'ailleurs, où il y participe toujours régulièrement. Il a eu quelques bouquins dans la collection carrément. Il en a eu 3-4, il me semble, lors de la décennie passée. Considéré comme scabreux aux Pays-Bas, finalement, sa désignation au Grand Prix sera aussi un scandale, mais sans qu'il y soit personnellement pour quoi que ce soit. Bon, c'est triste que son œuvre n'ait même pas provoqué de cris d'orfraie, mais finalement, la provoque, ben, elle n'est plus ce qu'elle était. La provoque, je vais dire, même à 71 ans, hein, on va dire, qu'est-ce qu'on en a à...
Et c'est marrant carré. Parce qu'on va finalement finir par croire que la Hollande est le pays spécialisé dans les expatriations des provocateurs scabreux après Verhoeven.
Ouais, bon, enfin bon, lui, il est précurseur par rapport à Verhoeven.
Oui, hein, largement, oui.
Hein, 10 ans au moins, quoi.
Il y a Dave aussi.
Ouais, bon, c'est pas la même chose, quoi.
Alors, oui, alors, donc, Willem, élu.
Alors, on dit Willem, normalement. Hein.
Willem.
Ouais.
D'accord.
D'accord.
Ok. Voilà. Bon, ok. Donc, Willem élu Grand Prix d'Angoulême cette année, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce vote n'est pas passé comme une lettre à la poste, puisque nous avions déjà commencé à parler du nouveau système de vote la semaine dernière sur la fin de l'émission. Donc, on récapitule un petit peu cette année. L'organisation du festival a souhaité étendre le système de vote de façon démocratique à tous les auteurs, mais aux auteurs seulement accrédités à Angoulême. Il fallait venir dans le sous-sol d'un espace franquin.
Tu veux dire que Passamonique était n'avait pas le droit de voter.
C'était pas un auteur, donc il n'avait pas le droit.
Ah bon.
Et il n'était pas accrédité non plus. Alors, il fallait que les auteurs délaissent leur bulle dédicace pour aller dans un espace ailleurs qui n'était pas fléché, dans un sous-sol qui n'était pas indiqué pour aller voter. Le jeudi après-midi, il y avait 16 votes seulement. Une urne transparente prêtée par la mairie qui est une vraie urne de vote c'est pas mal parce que les bulletins ne sont pas dans des enveloppes donc comme c'est du papier costaud ça, c'était à moitié plié, on pouvait voir qui avait voté pour qui, c'était super.
Avec 16 votes et en faisant le pointage ça a dû donner donc, de l'ambiance au
voilà
bar.
Donc les auteurs avaient le choix parmi une liste de 16 auteurs. Le dernier jour ou l'avant-dernier jour, le festival, voyant que les auteurs ne votaient pas massivement, ils ont mis l'urne sur un pauvre diable de déménagement.
Tu oublies de dire qu'en plus ce bulletin de vote était limité, je crois qu'il n'y avait que 16.
Je viens de le dire il y a deux secondes.
Ouais. J'étais en train de caler.
Ouais. Donc ils ont mis l'urne sur un diable pour aller à la chasse aux auteurs. Donc finalement, au total, on nous a dit qu'il y avait 500 votes, 500 auteurs qui avaient voté. Jusqu'au dernier moment, même les membres de l'Académie ne savaient pas s'il y aurait une shortlist de 3 noms ou de 5 noms.
C'était au moment de l'émission, oui, on a bien ri.
Donc au total, il y avait 5 noms. Et ce qui a déclenché évidemment le feu aux poudres, c'est que Trondheim, pendant les délibérations du vote, donc a lâché sur son Twitter. Donc je retrouve. Donc déjà, certains ne connaissent pas les œuvres des 5 finalistes et votent blanc. Donc il prend en photo le vote, les votes blancs décomptés sur le tableau blanc. Et également, il a tweeté « La majorité de l'Académie atteint son seuil de compétence en élisant le seul auteur connu, entre parenthèses, excellent néanmoins, par elle ». Sous-entendu qu'il y avait certains noms dans la shortlist que l'Académie ne connaissait pas. Nous allons nommer les 5 auteurs qui avaient recueilli le plus de suffrages parmi les auteurs accrédités. Donc il y avait donc Willem, Chris Ware, Alan Moore, Akira Toriyama et Katsuhiro Otomo. Le créateur de Watchmen, d'Akira, de Dragon Ball. Et Chris Ware, il a fait...
De mémoire, là j'ai oublié, mais c'est vrai que...
Voilà, donc en gros, ce qui...
Oh putain, mais je les ai lus, ces bouquins.
Donc ce qui est ressorti, effectivement, c'est que les membres de l'Académie refusaient également de voter pour un Japonais. Voilà. Donc Trondheim, au passage, avait dévoilé son vote, il avait voté pour Toriyama. Donc, évidemment, Willem...
Moebius aurait voté pour Otomo. Aurait été obligé.
Willem, donc, élu... il apparaît comme
Chris Ware.
Mais moi j'ai une question qui me taraude depuis le début. Est-ce qu'il y a une actualité éditoriale par rapport à Willem? Est-ce qu'il a sorti quelque chose récemment?
Oui, il est toujours pas mort.
Ben non, en fait, l'Académie récompense d'un grand prix pour l'ensemble de son œuvre, sans qu'il y ait forcément une actualité. D'accord. Ça a toujours été comme ça, en fait.
Ok.
Voilà.
Non, donc, mais il faut le préciser quand même. Oui. Parce que bon,
Donc, voler de bois vert sur Internet, Boulet qui parle carrément de gérontocratie, il met sur Twitter « Cependant, cette mascarade des votes était mignonne. Maintenant qu'on y a presque... cru, retournons à notre chère gérontocratie. » Donc ça, c'était pendant le déroulement de la cérémonie de remise des prix. Vendrille qui écrit le lendemain: « Je ne dis pas que cette pseudo-consultation des auteurs m'emmerde, je dis juste que j'ai la méga chiasse. » Il dit aussi: « J'ai rien contre Willem, le truc c'est que j'ai rien pour non plus. » Il met aussi dire que l'an prochain, si le jury des Grands Prix avait été moins vieux, Angoulême aurait pu devenir Gotham City ou No Tokyo. C'est vrai que ça fait rêver. Pénélope Bageux
ou même Capsule City, ou
oui, voilà.
Ou justement l'univers néo-moderniste de Chris Ware, de Jimmy Corrigan. C'est vrai que ça aurait été fun.
Pénélope, en fait, on votait pour le prix spécial, pas le Grand Prix, j'avais pas compris. Donc ensuite, d'autres soulignent aussi que le pauvre Willem, il a rien demandé, parce que s'il n'avait pas, il n'y avait pas eu cette mascarade de vote, c'était juste un Grand Prix qui était légitime autant que les autres.
Ça a dû lui faire bizarre d'être victime d'une provocation, en fait.
Alors Willem, le lendemain du vote, révèle quand même qu'il, de toute façon, quand il vient en Goulême, il passe son temps que dans la bulle des indépendants, parce que les grands éditeurs, de toute façon, c'est de la soupe.
Oui. Voilà. Il n'a pas changé. Hein.
Et voilà.
Il n'est pas édité par les grands éditeurs. Albin Michel n'a pas réédité depuis un bail ses bouquins. Donc.
Voilà, donc grosse polémique. Il faut dire aussi que d'un côté, on a les vieux, les académiciens qui font du prix académique, donc forcément ils votent pour leurs potes. Et d'un autre côté, la génération Twitter et réseaux sociaux qui a donc la parole, qui sait plus entendre de façon accessible, c'est la génération manga. Donc,
au moment où ils ont terminé leur temps de parole dans l'assemblée, ils profitent. Les vieux ronchonnent pour aller s'éclater sur Twitter. Ça me rappelle quelque chose.
Donc, du coup, pour récompenser finalement l'auteur de bande dessinée qui avait recueilli le plus de suffrages, donc c'était Toriyama, ils l'ont récompensé d'un prix spécial 40e édition. Donc, tout le monde est content. 40 ans, 40e édition, prix spécial, c'est très bien.
C'est manière Jacques Martin, mais pas celui-là.
Voilà.
Amusant,
donc...
non?
Donc voilà, le nouveau système de vote qui était quand même assez maladroit, un grand prix décrédibilisé, le vrai grand prix par les auteurs qu'on arrive à passer en loose day pour le récompenser quand même. Donc c'était vraiment... on voit que ça sent l'amateurisme. On attend de voir la présidence de Willem l'année prochaine. Non, on espère qu'il y ait peut-être une présence de Toriyama. Rien n'est moins sûr.
Ce serait énorme, mais c'est vrai que d'un autre côté, il n'a pas trop de séries en ce moment, donc.
Voilà. L'actualité de la bande dessinée, une affaire en chasse une autre, puisque la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, avait accordé sur le site de notre partenaire actualbd.com une interview à notre éditeur adjoint, Didier Passamonique.
Attends, je vais mettre l'ambiance musicale qui va avec. Elle va pas être déçue. Vas-y.
Donc une affaire en chasse une autre, je disais. Cette interview de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a aussi également fait beaucoup parler d'elle, puisque certaines maladresses ont été relevées dans ses propos dans une actualité où les auteurs sont pour la plupart dans la misère financière, ce que souligne d'ailleurs un documentaire qui a été financé à travers Internet et qui est diffusé dans plusieurs festivals avant d'être diffusé à la télévision, qui s'appelle Sous les bulles, le visage caché du monde de la BD. Voilà, donc ça, il y a aussi ça qui fait que la polémique a pris des proportions grandissantes. Et donc les fameux propos de la ministre, cité pêle-mêle, donc c'est sorti du contexte. Je vous encourage à voir l'interview intégrale sur le site d'actualbd.com. Donc on ne peut pas parler de crise de la BD par rapport à l'ensemble de l'industrie du livre, c'est même un secteur qui se porte bien. Il y a encore eu une légère progression l'année dernière. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres, près de 5500 œuvres nouvelles, mais je trouve cela extrêmement positif. Fin de citation. Un autre extrait de l'interview. Moi, ce que je souhaite faire, c'est établir un ensemble de mesures de soutien, notamment pour les libraires. Je pense qu'il n'y a pas de bande dessinée, d'auteur de bande dessinée, s'il n'y a pas de libraire pour faire aimer et découvrir la richesse de la bande dessinée aux lecteurs. Dans un milieu où les auteurs se sentent de plus en plus délaissés, ça a aussi fait tâche, c'est mal passé. Et troisième citation, c'est très important parce que la bande dessinée est un art populaire et une manière de faire lire les enfants. Voilà, donc Boulet qui s'est fendu d'un tweet en disant « Oui, ben, vous avez qu'à arracher les pages de mon livre pour les torcher, puisque apparemment ça sert qu'à faire lire les enfants. » Voilà, c'est assez mal passé dans un contexte chaud, hein. Extrêmement difficile pour les auteurs. Je pense que tout le monde est à cran. La ministre s'est aperçue qu'il y avait eu un buzz. Elle a attaqué tous azimuts, les rédactions de Télérama, rue 89, en disant
« Oh, c'est les aigris hein. !»«
Vous ne savez pas ce qu'est la déontologie, je m'attendais à plus de professionnalisme de votre part. » Voilà, donc une grosse affaire qui a été temporisée. Il y a eu des lettres ouvertes de partout. La scénariste Isabelle Bottien s'est fendue d'une lettre ouverte à la ministre. Voilà, donc il y a eu pas mal d'affaires également. Thomas Cadenne également, l'auteur. Voilà, donc c'est une affaire à suivre. Alors évidemment, je vous encourage à aller sur le site Actua BD. Donc il y a plein dans les commentaires les gens qui s'égosillent et ainsi ça a été repris dans Télérama, dans Rue 89, dans le site actualité.com également. Voilà.
Je pense qu'il est bienvenu. C'est le dernier single de Didier Vampas. Hein.
Bon, qui est sorti il y a un an, quoi.
Mais qui est sorti il y a un an. Illustré single... par Linda Ingres.
Voilà, c'est ça. Et qui a d'ailleurs.
Par l'Indigre.
L'Indigre qui a fait une bande dessinée Lindingre. Complète d'après le morceau.
Mmh. C'était pas la première fois que Vampas fait ce genre d'événement, d'ailleurs, justement. Punk ouvrier. Spécial dédicace. Vous écoutez Radio FMR, c'est le super week-end. Didier Vampas par Punk Ouvrier. Donc, vous écoutez Radio FMR.
C'est l'inverse, c'est Punk Ouvrier par Didier Vampas.
Vous écoutiez Didier Vampas, Punk Ouvrier. Virgule.
Ah.
Oui, je sais, elle passe super mal en radio. En télé, ça passe mieux des fois. Thomas.
Oui, c'est moi.
On avait parlé de Medinazia et on a fait un mix un petit peu bizarre. Là, on va faire d'Angoulême vers Toulouse au Japon. On va faire un truc un peu bizarre.
Ouais, mais c'est pas si bizarre parce que l'interview que nous allons vous diffuser à présent a été enregistrée lors du festival d'Angoulême l'an dernier. Et entre-temps, la série de cet auteur de manga s'est terminée et donc nous décidons de vous passer l'interview. Il s'agit de l'interview de l'auteur de manga Atsushi Kaneko, dont nous avions déjà diffusé une interview à l'occasion de son manga précédent qui était Bambi.
C'était en 2007.
Tout à fait, donc Kaneko avait, au cours d'une rencontre très intéressante, et donc à l'occasion de la sortie du dernier tome de Soil, qui est sorti il y a quelques mois déjà, bon on a un peu de retard mais bon c'est pas grave, donc Soil dont nous avions beaucoup parlé dans cette émission, et eh bien le tome 11 est sorti. Alors du sport il a beaucoup à rattraper, je crois qu'il a 5 derniers tomes à rattraper.
Ouais, depuis 7.
Je vais te les apporter dès que j'aurai fini mes chroniques dessus. Donc voilà, Soil.
Alors je m'en vais parce que sinon je vais...
Non mais je parle okay. Pas du tout, je spoil justement pas parce que j'ai pensé à toi justement.
Non mais de toute façon, spoiler Soil à mon avis ça va être assez compliqué.
Oui. largement. Alors... Donc on rappelle qu'on l'a connu par une bande dessinée qui s'appelait Bambi, où c'était l'histoire d'une fille complètement dévergondée dans un... avec face à un espèce de The King, enfin un Elvis Presley, patron de la mafia, obèse et assassin de jeunes filles. Et c'est un dessin qui est super précis, qui est vraiment d'une netteté absolue, un peu à la George Darrow. Et en même temps, voilà, il y a du sang, des éclats de verre partout, voire même des brisures d'os qui partent sur tous les côtés. Et c'est vraiment le style de Atsushi Kaneko. Nous l'avions rencontré donc l'an dernier à Angoulême. On remercie beaucoup d'ailleurs son traducteur qui enrichit énormément l'interview. Vous allez le découvrir par vous-même.
Atsushi Kaneko, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous revoir après 5 ans. Depuis notre précédente interview, vous avez sorti une nouvelle bombe, Soil. Est-ce que vous pouvez la présenter ?
Je suis déjà très heureux que vous vous souveniez que nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Donc, comme vous l'avez dit, il y a 5 ans, j'ai été invité pour une série qui s'appelle Bambi. Là, avec Soil, je suis de nouveau invité. C'est une série tout à fait différente, dans laquelle il y a une espèce d'énigme au centre de l'histoire. Mais pour moi, l'intérêt de cette série, ce n'est pas la résolution du mystère, mais plutôt le mystère en lui-même. J'ai envie que les gens prennent plaisir à cette ambiance un peu étrange. Et c'est également une série qui fonctionne beaucoup plus sur le détail, qui est plus travaillée, plus construite.
Alors sur Soil, vous multipliez les genres. Il y a l'humour noir, l'horreur. Le polar, est-ce que c'est parce qu'il voulait éviter de s'ennuyer et de s'amuser en rebondissant d'un genre à l'autre ?
Pour moi,
la question centrale du travail d'artiste, c'est pas tellement de savoir quoi exprimer, mais plutôt comment l'exprimer. Pour moi, c'est la forme qui est plutôt la question primordiale. Et dans Soil, si j'ai essayé de mélanger tous ces genres différents, c'est en fait une manière de me les approprier et de constater que quoi que j'utilise comme élément, je finis toujours par en faire par les tourner disons à ma manière, les détourner à ma manière. Et j'ai aussi essayé de construire cette énigme, ce mystère autour d'éléments à la fois historiques mais aussi d'éléments contemporains qui touchent à des problèmes de société du monde actuel.
Il y a tellement de personnages riches dans Soil, le samouraï tueur, la colonne de sel, les enfants. Est-ce qu'il a pas peur d'avoir grillé toutes ses cartouches en une seule série ? On aurait pu en faire plusieurs.
Oui,
en effet, quand j'ai écrit l'histoire, j'ai eu un peu peur d'être à court d'idées pour la suite. Mais finalement, je ne me suis pas imposé de contraintes et j'ai voulu avant tout servir l'histoire et lui insuffler autant d'éléments qu'il fallait pour la faire fonctionner.
Et de quel personnage vous sentez-vous le plus proche, même si on a une petite idée, on pense que c'est le capitaine Yokoi.
Tout
d'abord, je détesterais travailler avec quelqu'un comme Yokoi. C'est vraiment pas quelqu'un que j'apprécie. Les personnages qui me tiennent le plus à cœur sont les deux enfants en fait qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux qu'on voit et que j'ai aussi précédemment utilisé dans mes histoires courtes, celles que j'ai écrites avant Bambi. C'est pour moi des espèces d'alter ego.
En plus, on sent que pour Onoda, par exemple, pour revenir à Bambi, on sent qu'il faudrait pas grand-chose pour qu'elle bascule dans le côté punk, quand même.
Oui, si elle continuait à travailler avec Yoko et à subir ses brimades, il y a beaucoup de chances qu'elle finisse par craquer complètement et qu'elle devienne un peu comme Bambi.
Justement, par rapport à Bambi, qui était une série en road movie, tout sur le mouvement, là, on est dans une ville unique, c'était beaucoup plus statique, posé. Est-ce que c'était une volonté vraiment pour rompre avec la série précédente ?
そうですね。まずバンビーに関しては、旅の途中で。
Oui, dans Bambi, en fait, l'histoire, comme vous dites, se déroulait au fur et à mesure du voyage. Et au fur et à mesure de ce déplacement, j'injectais tout ce qui me passait par la tête, tous les éléments qui me tenaient à cœur. En fait, c'est une série qui me servait un peu de carte de visite, qui servait à présenter mon univers et ma personnalité. Dans Soil, l'histoire se déroule dans un environnement très, très standardisé, très, très lisse. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans Soil, c'est de montrer ce qui se passe quand le quotidien se fissure, ce qui se passe quand la normalité est dérangée. Donc j'ai vraiment cherché à créer une situation extrême où cette idée de normalité est représentée à un point, à un degré extrême. Mais pour moi, cette ville de Soil New Town, c'est un peu une version miniature du monde. Et c'est un endroit qui pourrait être dans n'importe quel pays du monde.
Soil va être adapté en série télé sur la chaîne à paillage WoWo, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que ça t'a obligé de revoir certaines des scènes de la bande dessinée pour la série que tu continues d'une manière un peu plus réaliste ?
Alors en fait, la série Soil est déjà terminée, l'adaptation télé est déjà terminée.
Oui, mais il continue la BD.
La BD était terminée aussi. Oui.
Pardon. Alors
en fait, l'histoire de Soil a été écrite d'un bout à l'autre dès le début, avant que je commence à dessiner les planches. Donc j'avais écrit toute une trame très précise, très détaillée. Et quand il a été question de l'adapter en série télévisée, la série en tant que manga n'était pas encore terminée. Donc j'ai montré mon script au réalisateur et je lui ai montré ce qui se passait à la fin. Et lui a estimé qu'il n'était pas possible de l'adapter tel quel pour la faire tenir en peu de nombre d'épisodes qui étaient prévus, c'est-à-dire 8 épisodes. Donc il a réécrit toute la deuxième moitié de Soil. Et moi, je considère que cette adaptation télévisée, c'est plutôt l'œuvre de ce réalisateur plutôt que la mienne. Ce sont deux choses différentes et je ne suis pas du tout intervenu dans l'écriture de la série télévisée. Oui.
Sur votre carte de visite, il y a une splendide illustration qui est au dos, qui présente l'univers de votre nouvelle série. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
T'as l'art des questions super radiophoniques, toi. Hein, une carte de visite en radio, super. Je vais la faxer aux auditeurs.
Tu peux traduire ça aussi.
Donc c'est une série qui s'appelle Wet Moon, qui se situe dans le Japon des années 60 et qui se passe dans une station balnéaire. Et c'est l'histoire d'un policier qui est à la poursuite d'une fugitive qui est accusée de meurtre. Et c'est une histoire qui part d'un postulat assez simple, mais comme c'est un manga de Kaneko Atsushi, il y a beaucoup de choses qui vont faire dérailler l'histoire vers des domaines un peu plus étranges.
Alors maintenant, vous êtes passé pour Soil chez l'éditeur Ankama, alors que vous étiez chez IMHO. C'est parce que Ankama est venu en pleurant, ou bien c'est l'attrait des armes blanches de Run qui vous a fait convaincre de passer chez cet éditeur? Pareil qu'ils se détestent entre eux. Hein. C'est faux, bien sûr.
Je ne
peux vraiment pas parler de ce genre de choses parce que je ne gère pas toutes ces questions de droit. Ce n'est pas moi qui s'occupe de choisir qui va sortir mes livres en France. Voilà.
Vous avez jeté un coup d'œil sur le label 619 d'Ankama, justement?
Non, je ne suis pas du tout au courant, je ne connais pas du tout.
Paraît que, puisque dans la précédente interview, vous avez parlé de, que vous étiez vraiment, vous auriez aimé être réalisateur, de faire carrière là-dedans, et justement, la manière de faire du cinéma transparaît dans vos mangas. J'ai cru comprendre que vous avez eu un premier court-métrage qui allait préfigurer ce que vous alliez faire en BD.
Je peux t'expliquer brièvement
Vas-y.
D'accord.
Donc le traducteur me corrige, c'est sympa.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il était toujours passionné de cinéma. Mais au Japon, l'industrie du cinéma fonctionne selon un système assez, assez fermé. Il faut passer plusieurs années en tant qu'assistant réalisateur pour enfin se voir confier la réalisation d'un film. Mais il se trouve que dans le cas d'auteurs de romans ou de mangas, à partir d'une certaine notoriété, on peut tout à coup recevoir ce genre de propositions. Et lui, en fait, a réalisé, donc après avoir fait Bambi, etc., lui a réalisé un court-métrage dans un film à sketch qui s'appelle Rampo Noir, donc autour de l'œuvre de Edogawa Rampo. Voilà. Et... donc peut-être qu'il peut vous en parler un peu plus, mais c'était donc après qu'il ait été connu et reconnu en tant qu'auteur de manga. Déjà, pour parler un petit peu de la manière dont s'est présenté le projet à moi, au début, le producteur de ce film à sketch, Rampo Noir, m'a abordé en me demandant de réaliser des illustrations. Et il pensait que ce segment serait raconté par des illustrations et des voix qui seraient posées dessus. Mais il se trouve que moi j'étais dans une école de cinéma en fait, donc je savais comment faire des films, et j'avais aussi toujours ce désir de me coller au cinéma, donc le projet a évolué de cette manière-là. Mais même si j'avais appris les techniques de cinéma à l'époque, à l'école, pardon, j'étais toujours un amateur complet, je n'ai jamais passé derrière une caméra. Donc je me suis vraiment interrogé sur la manière dont je pouvais tirer parti de mon expérience en tant qu'auteur de manga, et j'ai réalisé un storyboard très précis, scène par scène, du début à la fin de ce film. Et c'est en montrant ce travail-là que j'ai pu... C'est en montrant ce travail à l'équipe du film que j'ai pu leur faire comprendre mes intentions et qu'ils ont pu m'aider à réaliser ce film du début à la fin. Alors, Edogawa Rampo est un auteur très connu au Japon, et ses œuvres sont vraiment marquées par une vision très sombre du monde, un goût pour l'érotisme, le bizarre, et beaucoup de ces textes ont été adaptés au cinéma ou à la télévision, et souvent les réalisateurs insistent sur ce côté sombre, et moi j'ai plutôt choisi de m'approprier son travail et de lui insuffler ma vision. Et également, quand j'ai relu le texte que j'ai adapté, j'y ai vu surtout un humour très présent, et j'ai voulu vraiment insister sur ce côté comique, humoristique, et je pense que, j'aimerais que les spectateurs voient dans cette adaptation plus une œuvre de Kaneko que finalement une œuvre fidèle au travail de Edogawa Rampo.
Kaneko Atsushi, arigato.
Merci.
Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Aurélien Estagé, qui a été donc notre traducteur, que vous avez entendu, donc qui nous a fessé en direct. On a tenu à les garder parce que c'était des précisions qui étaient plus qu'intéressantes. Ce qui est amusant, c'est que j'ai sabré sans le vouloir la partie présentation de l'album.
Oui, donc si vous nous écoutez en podcast, vous ferez avance rapide sur l'interview, vous écouterez cette présentation de la BD, vous referez...
Ou, si vous voulez garder le mystère, vous zappez et vous vous direz, bah alors qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors, Soil, une série en 11 tomes qui raconte, dans une ville nouvelle sortie de terre au Japon, la disparition mystérieuse d'une famille, donc deux parents et une petite fille. Des colonnes de sel apparaissent mystérieusement, la police piétine, ils ont des réponses pour rien du tout. Les gamins de la ville commencent à péter un câble, ils se réunissent en espèce de milice pour foutre la merde. Les fleurs commencent à se dessécher, on voit que les façades des sourires et des gens bien portants qui sont à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, mais cachent souvent un peu des caractères de psychopathes, des maîtres d'école, des délégués de village qui font des choses pas très catholiques avec des petits enfants. Donc on voit que c'est, quand on gratte un peu, c'est un peu noir. Sachant que, en rajoutant à cela, bah, les deux flics principaux, bah, c'est pas vraiment des lumières non plus. L'un, il passe son temps à se gratter les parties en étant très vulgaire, et là, le gros ton, donc c'est la nana qui l'accompagne, bah, c'est ça, c'est un peu sa première affaire, et puis elle est un peu vierge de tous les côtés, et surtout dans tous les domaines, voilà.
J'adore ton résumé, il reflète vraiment l'esprit de la série.
Oh, je pense que là on a bien résumé la série,
ça va.
On a donné bien envie.
C'est ça, c'est vraiment ça en plus.
En plus, si vous matinez ça d'une dose très très gore, parce que quand il y a des gens qui se charcutent au cutter, il y a des gens qui sont un peu obsédés par d'autres personnes, alors ils font des cochonneries dans leur coin au milieu de verres brisés, voilà. On a aussi, bon là, il y a des meurtres, bon voilà, pas mal de petites cochonneries dans cette BD. Voilà, 11 tomes de mystère, un peu à la Twin Pix, où l'auteur s'interroge sur la normalité des choses et le visage caché de la nature humaine et de la nature tout court. Voilà, donc il est aussi question de vortex, d'un samouraï qui lévite dans l'air pour aller buter des gens dans le futur.
Il y a des trucs que tu comprends pas, tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, ça a aucun rapport avec ce qui s'est passé juste avant, et puis... Bon bah voilà quoi, tu dis bon bah tu l'acceptes tel quel et tu continues.
Voilà, donc plein de gens mystérieux, je pense qu'il n'y a pas un seul personnage normal dans cette série. Si vous aimez les ambiances bizarres, les mangas un peu underground avec un trait qui sort vraiment des sentiers battus, qui a l'air très figé comme ça, mais en fait c'est une précision au cordeau et qui te rend qui rend bien une bonne ambiance malsaine malgré le côté très très clean du trait. C'est une série qui est faite pour vous. En plus, pour un manga, 11 tomes, c'est pas beaucoup. Je vous encourage à lire les 3 premiers tomes.
Faut préciser quand même que c'est touffu. Hein.
C'est très dense.
Chaque tome se lit vraiment très lentement. Faut prendre son temps, faut pas louper des trucs.
Surtout que c'est vraiment de belles planches. Il faut vraiment les contempler, le dessin. Oui. On a vraiment différents niveaux de lecture. C'est très agréable.
Voilà, donc c'est
une... N'en jetez plus.
Voilà, donc si vous aimez Twin Peaks, les films de David Lynch, et que vous n'êtes pas réfractaire évidemment au manga en noir et blanc à lire dans le sens original, c'est une série pour vous. Soil, 11 tomes, Atsushi Kaneko chez Ankama.
On va rester dans les auteurs japonais pour les chroniques BD dans l'immédiat, sauf qu'il s'agit de japonais qui parlent de la France, s'il vous plaît, ce qui permettra de faire une transition rêvée sur Made in Asia, si on a encore des choses à dire de ce côté-là. Hein, Thomas, tu as encore des choses à dire sur Made in Asia, non ?
Non, je crois pas, j'ai fait le tour.
Bon, d'accord,
tout à l'heure. Ok. Pourquoi ?
C'était pour pas que du sport parle trop vite de sa BD qui doit appeler à gazer,
parce que sinon
il est de corvée de vaisselle. C'était juste pour voir si on y arriverait ou non. Bah tant pis. Allez, totalement autre chose et une ambiance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fun et rigolote. On repart à Angoulême avec Garou Terada de Mangaka à Angoulême. C'est dans la collection Made in Shikana. Garou Terada, c'est la femme de Toru Terada, le dessinateur surdoué du Petit Monde, album couleur qu'on a vu dans un format italien, scénarisé par Jean-David Morvan, que l'on avait beaucoup apprécié en 2006, et c'était justement pour la sortie de cet album que le couple avait été invité à l'autre bout du monde, pas si petit, en plein cœur des Charentes. Petit décalage. Premier décalage. Les auteurs de manga n'ont pas franchement l'habitude de sortir de chez eux. Ben oui, vous imaginez, les auteurs de manga, ils doivent faire leurs 10 planches par semaine rapidement, etc. Alors vous imaginez s'ils doivent sortir de chez eux, le temps que ça prendrait et tout. En général, ils ne sortent même pas pour aller faire leurs courses. Bref. Bon. En fait, le titre est un peu trompeur. Seul le dernier tiers est réellement consacré au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. La première partie concerne la rencontre avec le staff éditorial, les auteurs français et une équipe de télévision qui vient les rencontrer, et leur tournée promo à Bruxelles, puis à Paris, avant le festival pour le premier tome du Petit Monde. Garou, un style très caricatural, manie très nerveusement le feutre, ce qui rend très 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 drôle la représentation de Jean-David Morvan, Philippe Bucher, du staff de Cana. Bon, ok, ça c'est si vous les connaissez visuellement, effectivement ça vous fera quelque chose. Mais aussi la compréhension des mœurs japonaises par les Français. Le livre est en soi assez épisodique, c'est un carnet de voyage essentiellement pris sur le vif, sur des anecdotes plutôt banales et personnelles, et néanmoins intéressant sur le regard qu'ils peuvent avoir sur un festival de bande dessinée tel que nous les connaissons en France. C'est-à-dire, ben voilà, ils ont les badges, il y a l'espace, il y a ce qu'on appelle le Fight Club avec Thomas, il y a aussi donc le backstage des éditeurs, mais aussi ben justement la tenue des stands des éditeurs et la relation avec le public des lecteurs, avec ceux qui viennent pour se faire dessiner un album. C'est un album, je veux dire, qui intéressera uniquement si, franchement, vous êtes très 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 fan, hein, ou si vous allez justement dans ce genre de festival, de Mangaka Angoulême, de Garou Terada, et co-illustré par Toru Terada. Il y a quelques planches hein, qu'il a fait, on reconnaît immédiatement son style pseudo-childish, immédiatement, c'est dans la collection Made in Shikana, et Thomas, et visiblement, il semble être pris dedans.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un manga qui se lit assez vite.
Franchement, ça va franchement très vite.
Et ça a l'air assez drôle, puisque oui, j'ai commencé à feuilleter, mais c'est apparemment, on dirait qu'ils ont été morts de faim pendant tout leur voyage, où ils ont appris à dire j'ai faim en français, voilà.
Bah, ils n'ont pas l'habitude de prendre l'avion, donc le décalage horaire est ça creuse, surtout que tu manges pas vraiment dans l'avion. C'est vrai que les Japonais qui ont l'habitude de voyager, tu les vois de suite parce qu'ils commandent 2-3 bols de nouilles dans l'aller-retour, et après ils arrivent le soir. Ils sont un peu décalés et tout, ils se rendent pas compte, ils ont la dalle. Donc,
Mais il disait justement dans Voyage au Japon, le livre d'aquarelle et de carnet de voyage de Rémi Ménègre qui était paru chez Café Salé. Il disait qu'il y avait, on reconnaissait les clientèles à leur nationalité dans les avions, parce que par exemple, c'était un avion qui faisait France-Japon, et puis le steward leur disait en fait, on reconnaît les Japonais dans les lignes franco-japonaises parce que, en gros, les compagnies, ils ont limité à un bol de nouilles instantanées parce que sinon, les Japonais, ils sont tellement friands des nouilles que, en fait, ils deviennent obèses.
Non, enfin, coupe.
Donc, du coup, ils ont droit qu'à un bol de nouilles japonaises. Alors, ils disaient, voilà, il y avait la discipline, la clientèle japonaise qui était très, très, très disciplinée. Et sinon, une autre anecdote, c'était qu'il y a quelques années à Angoulême, il y avait un japonais qui s'était fait une spécialité de dessin de samouraï, un japonais, un grand maître du manga, j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui était venu
ça n'arrive pas qu'à moi.
Qui était venu en tenue traditionnelle de samouraï, sur la scène du festival.
Oui, et j'avais vu un reportage.
Voilà. Et tout le monde s'était moqué de lui parce qu'il était venu à japonais, c'est-à-dire impassible, qui était dans son monde et tout. On aurait mis des paravents, des tatamis et tout, c'était parfait. Sauf qu'il y a plein de gens qui se sont moqués de lui et tout. Et il y a la maîtresse de cérémonie qui lui dit alors évidemment, on adore que les étrangers parlent de nous, donc elle lui dit alors, c'est quoi la chose qui vous a le plus marqué à Angoulême? Alors il te l'a fait à la japonaise, l'air de pas y toucher, tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon, mais c'était certainement une réponse au Colébé, il a dit les ronds-points.
Oui, c'est vrai qu'en plus en pente, les ronds-points sont un peu spéciaux. Hein.
Voilà, donc ça c'était excellent sa réponse parce qu'au moins ceux qui avaient été choqués, ils ont bien répondu. Alors au lieu de dire oui, cette culture gastronomique ou je sais pas moi, ou les vieux monuments,
la Tour Eiffel.
Les ronds-points. Voilà, c'était magnifique.
C'était pas mal. Haute sortie bande dessinée avec une toute toute autre ambiance. Ouais. Hop, tiens, celle-là. Zou, tranquille. C'est un bouquin qui... le deuxième tome s'est fait attendre quand même. Il a passé un certain temps avant d'arriver. De Junko Kawakami, It's Your World. Le deuxième tome donc, est sorti dans la collection Made in Shikana. Et avant de parler du bouquin lui-même, j'aimerais plutôt parler de la dessinatrice donc elle-même. Junko Kawakami va fêter ses 40 ans cette année. Elle a commencé à être publiée en 1995 et elle s'est installée depuis une dizaine d'années à Paris. Elle continue de travailler pour des magazines japonais pour lesquels elle poursuit plusieurs séries, Cookies, Da Vinci. Et dans une interview qui a été réalisée lors de la sortie du premier tome de It's Your World en 2008, c'est une interview qui est sur ActuaBD, signée par un certain Passamonet Kandigui, elle disait que son volume moyen de production est d'une trentaine de planches par mois. Fait rare. Cette série était sortie en France avant de sortir au Japon. Bref, inutile de dire que elle est vraiment intégrée en fait hein, à la France de ce côté-là, et elle disait qu'elle travaillait en atelier justement à Paris. Dans It's Your World, on suit Hiroya, un jeune japonais qui a suivi ses parents en France. Papa est cadre dans une entreprise et a été nommé en poste à Paris. Il a emmené sa femme, sa fille et son fils dans la ville lumière. Alors, juste une info, c'est vrai, ça je l'ai pas marqué. En général, quand un cadre est nommé en poste à l'étranger au Japon, ça n'est pas un honneur.
Oui, c'est une punition.
C'est en général, c'est une punition. Voilà, donc il faut le préciser. Mais je resterai soft, donc je le mettrai pas dans ma chronique écrite au cas où elle me relise. Mais Hiroya, qui ne parlait pas un mot de français quand il est arrivé, a eu des difficultés à s'intégrer en classe. Bah oui, tu m'étonnes. C'est aussi l'histoire de Fatima, la fille qui est allée vers cet étranger un petit peu bougon et l'a aidée à apprendre le français. Et donc, l'attirance non avouée entre un garçon d'une famille aisée expatriée et une fille issue d'une famille ouvrière immigrée. On n'est pas exactement sur le même niveau, évidemment. Cette série nous fait redécouvrir notre propre pays par les yeux des Japonais installés. La mixité entre les couleurs de peau. Bah oui, vous allez au Japon, en général, bah, vous avez des Chinois, des Coréens et tout ça, un peu la même couleur. Les voyages scolaires à l'étranger. Bah oui, au Japon, les voyages scolaires à l'étranger, on fait 200-300 km, on se retrouve soit au Mont Fuji, au Fujisan, soit on se retrouve à Osaka. En 200-300 km à partir de Paris, ben, tu peux te retrouver à Bruxelles, à Londres, en Allemagne. Bref, c'est totalement, pour eux, c'est complètement bizarre. La saleté, plutôt relative, hein, des rues. La saleté déplorable du métro parisien. Quand même, c'est franchement dégueulasse, en général, le métro à Paris. Les garçons dragueurs.
Ah, ils ont pas eu celui de Londres, alors. Hein.
Non, celui de Londres est très très propre, oh, du sport. Ah non, 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 je te jure qu'il est très propre, qui n'est pas allé depuis un bail.
Oui, oui, ils ont changé alors.
il a vraiment changé. Hein. Les garçons dragueurs, les baisers dans la rue, les plats surgelés, ce qui surprend énormément les femmes japonaises, parce que du coup, ah, c'est comme ça que les femmes françaises ont le temps de se préoccuper d'elles-mêmes et tout. Du coup, elles ont les plats préparés. Eh ben oui. Et le mal du pays dans la nourriture. Alors, je vous laisse découvrir l'ingrédient qui manque à Hiroya sans qu'il arrive à mettre le doigt dessus. Ça va vraiment vous surprendre, mais pour ceux qui connaissent justement la nourriture japonaise, on va dire, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. On s'esclave aussi quand on voit les lycéens se traiter de sales bourgeois alors qu'ils prennent un verre en terrasse de la brasserie Les Deux Moulins, située sur la butte Montmartre, 18e arrondissement, d'un tarif peu populaire, surtout suite au film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, puisque c'est là qu'il a été tourné, voilà. Alors tu vois les gamins qui font « Ouais, fuck, espèce de bourgeois et tout, ouais, tu m'étonnes, au prix du café là-bas, t'es gentil, mais tu peux trouver moins cher quand même dans le quartier. » On sourit à la première allusion à Japan Expo et à son folklore assez particulier. On éprouve cette gêne quand on voit des ados aisés qui font de la fauche dans les magasins juste pour se donner stupidement de la contenance. Bref, on a vraiment la surprise de redécouvrir son propre pays. Et par ce décalage, on comprend aussi cette atmosphère des villes japonaises telle qu'elle est représentée dans les mangas. Je pense que ce livre serait vraiment le chignon manquant qui aiderait bien des lecteurs de mangas à mieux comprendre à la fois un pays lointain, mais aussi le leur. It's Your World, deuxième tome de Junko Kawakami dans la collection Made in Shikana. Même si vous n'avez pas lu le premier tome, on y est assez vite plongé, donc c'est vraiment agréable à lire. Thomas. Non, t'as même pas regardé quoi.
Si j'ai. Mais ça me donne. Alors,
c'est le, alors, c'est le côté girl.
Bien, moi j'aime bien le dessin.
Ah, attends, le débat e-télé, s'il vous plaît, l'un après l'autre, ça sera mieux.
Non, moi j'aime bien le dessin. Hein, je trouve que c'est vachement. C'est fin, c'est vachement bien travaillé.
Il se prépare pour la chronique d'après.
Il y a un truc, moi, qui me. Enfin, je l'ai pas lu, je suis en train de le feuilleter. Il y a un truc, moi, qui me paraît un peu bizarre et qui m'a un petit peu gêné comme ça. C'est la taille des phylactères, si tu veux, par rapport au texte. Les textes sont. On pourrait très bien réduire le phylactère de deux tiers, quoi, et quand même lire le texte qui est à l'intérieur.
Je pense.
Tu vois ce que je veux dire
oui,
c'est systématique,
mais...
hein. Alors, ce qui fait que, bon, quand il n'y a pas trop de texte, ça va, mais il y a certaines cases où le phylactère prend le plus. Quand tu as plusieurs phylactères, si tu veux, ça prend vraiment la majorité de la place sur la case. Et ça, moi, je trouve c'est un peu gênant. Enfin, là, c'est juste, je suis en train de feuilleter, voir au niveau graphique ce que ça donne. Mais sinon, hein, le dessin est nickel. Hein. Putain, c'est. Wow. Quand même. Hein.
Alors, moi, pour ma part, j'ai horreur du dessin. Je trouve ça girly. Ça
ah oui, non, mais c'est,
ah mais c'est du shoujo. Hein, purement.
Ouais, c'est du ski.
Par
style,
contre, hein. La chronique de Xavier m'a donné envie de le lire.
Ah, franchement, moi, c'est tu vois, tu touches des doigts, tu sais, parce que nous, on lit des milliers de mangas hein, depuis qu'on a commencé cette émission il y a 10 ans, un sacré paquet de lus, aussi de bandes dessinées, de comics et de BD.
Ce serait bien de faire une statistique, à un moment donné, ça ferait peur, je pense.
Oui, surtout qu'on n'a pas tout chroniqué sur nos blogs respectifs et tout ça, donc on n'y arriverait même pas. Mais ce qui est très intéressant... C'est justement, c'est que quand il touche du doigt ce qui lui manque dans la nourriture, de la nourriture japonaise, un ingrédient assez particulier, et finalement, paf, tu touches du doigt ce qui, dans des mangas contemporains qui se passent au Japon, ce qui manque de la description et tout ça de ton propre pays, enfin moi je connais très bien hein, tout ça, et en fait tu dis oui, c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça, donc Tu es face au malaise finalement de Hiroyu, et en soi, moi franchement, je l'ai lu en deux parties hein, quand même. Mais après, c'est vraiment quelque chose, tu te dis, oui, en fait, il y a quand même beaucoup d'enseignements à relire de ce bouquin, et c'est très agréable. Moi, j'ai pensé immédiatement à une chose, et j'ai oublié de l'écrire dans mon bouquin, dans ma chronique, pardon, et je le regrette, c'est l'immeuble d'en face.
De Vanida.
Même style et finalement même chose qu'elle raconte.
D'accord.
Voilà.
Bon. Bah, c'était bien l'immeuble d'en face, donc ça me donne encore plus envie de la lire. Donc du sport, tu liras avant moi.
D'accord.
Toi aussi, tu as de la main.
Non.
Non, tu as du girly.
Non,
t'as de l'alcool.
Girly.
T'as de l'alcool là.
Alors, du girly.
Le titre, c'est l'alcool. Ça vient...
Oui, Pink Daiquiri. Paru chez Le Lombard.
À la tienne.
Dessiné par Bax et Grazini, qui sont deux dessinatrices brésiliennes.
Ah oui.
Et le scénario donc
brésilienne.
Oui, brésilienne. Brésilienne.
Oh, et je l'ai pas faite. Voilà.
Et le scénario est de Laurent Abar et de Mélanie Thierry.
Comme l'actrice. Mélanie Thierry comme l'actrice.
Non, Thierry. Thierry.
Ah, Thierry, d'accord.
Thierry. Pas que Thierry, comme Thierry le prénom. Hein. Mais, Thierry, il n'y a pas de I après le TH.
Comme Pratchett.
Okay. Voilà. Alors, une des particularités de ce bouquin, c'est qu'il a deux couvertures. Déjà. Hein, tac et tac.
Ah, attends, tu les mets à l'envers, là. Ah oui, d'accord.
C'est comme ça et comme
okay.
ça. D'accord.
D'accord.
Alors, oh, joli.
Alors, alors déjà, bon, bah, ça peut paraître intéressant. Alors, c'est l'histoire de deux colocatrices qui ont chacune leurs occupations et dont on va apprendre énormément de choses par rapport à leur vie, à leur situation amoureuse. D'accord ? Bon, la particularité de ce livre, c'est que, eh bien, il y a deux points de vue. L'histoire est racontée de deux points de vue. Le point de vue de chacune des deux nanas. La première nana, c'est Clémence. La deuxième nana, c'est Alixia. D'accord. Clémence, elle, a une bonne situation. Elle travaille dans un cabinet d'avocat et s'occupe de grosses affaires. Son patron lui propose même, pendant l'histoire, une super affaire qui, ok, si elle la réussit, ça va être super pour elle, elle va être upgradée, enfin tout ce que vous voulez.
Upgradée.
Ouais,
promu.
Promu, voilà.
et tu deviens geek, toi, attention. Fais attention.
Je vous rappelle le moto de l'émission, le magazine des cultures geeks.
Je trouve plus les mots en anglais qu'en français. C'est pas bon. Hein. Ouais, je vais arrêter de lire en anglais parce que c'est pas bon. Alors qu'Alixia, elle, a une vie un petit peu plus simple. Elle est serveuse dans un petit resto. Enfin bon, un peu classos quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas le boui-boui du coin. Et en fait, l'histoire au départ. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est vachement rigolo, c'est quelle histoire vous allez prendre au début. C'est-à-dire, est-ce que vous prenez l'histoire, le point de vue d'Alixia au début, ou le point de vue de Clémence. Et selon que vous preniez un point de vue ou l'autre, vous allez avoir, parce que vous lisez la première histoire, puis après le point de vue de l'autre, mais si vous inversez, ça ne donne pas le même résultat. C'est-à-dire que vous dites, ah merde, généralement, on se prend d'empathie avec le premier personnage, le premier héros qu'on a, et le deuxième, on se dit, bon, ok, quoi, c'est le pendant, c'est celui qui fait chier, tout ça. Et là, ben non, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir autant d'empathie, entre guillemets, pour Alixia que pour Clémence. Bien que ce soit quand même bon, pas des grosses connes, quoi, mais enfin bon, des nanas, qui pensent pas à grand chose de la vie, sauf à s'amuser, à s'éclater et tout ça. Alors bon, c'est quand même une bande dessinée qui est réservée à pas mal à un public, on va dire, un petit peu averti, hein, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de sexe, d'histoires d'amour, de mecs qu'on se pique, de filles frigides qui n'atteignent pas l'orgasme, de petites choses comme ça. Bref, bon, bah, c'est.
Madame du sport dit qu'elle n'est pas frigide.
Si, c'est elle qui le dit, hein. C'est elle qui le dit, hein, à la fin. Quoi.
Non, alors vous avez pas le visuel, dit c'est elle qui le dit en pointant l'album.
Et moi avec le téléphone à l'oreille. Voilà, désolé. Bref, on fait de la radio, hein.
Donc, est-ce que c'est un one shot ou est-ce que c'est en plusieurs
tomes? C'est un one shot. Non, d'accord. C'est un one shot, hein, donc il y a pas de problème, quoi. Il y a plein d'histoires de quiproquos, de petites choses comme ça qui sont assez sympathiques. Ça se lit vraiment assez rapidement. Il y a pas de problème. Ça fera plaisir à une certaine caste de gens qui se sentiront contentés dans leur vie artificielle, quoi, en se disant ah ouais, ils sont comme moi, c'est cool, hein, ouais, pas mal. Bon, ben voilà, quoi, c'est ça. Alors, au niveau du dessin, du graphisme, bon, c'est assez sympa. C'est-à-dire qu'il y a une nana qui s'occupe d'une dessinatrice.
D'accord. D'une partie.
D'une partie et l'autre de l'autre. Donc, ça se rapproche quand même. Il n'y a pas tellement de différence. Hein. Au niveau des couleurs, ils ont été obligés de respecter une charte graphique, ça c'est clair. Hein. Mais il y a quand même quelques petites invraisemblances. Parce que, bon, l'écriture a été faite de manière assez bizarre. Le scénario a été écrit longtemps à l'avance. Et ensuite, elles ont transmis les informations du scénario aux dessinatrices qui étaient au Brésil. Mais une des deux dessinatrices ne parlant pas le français, il a fallu que la nana traduise le scénario en portugais pour la dessinatrice, tu vois. Et en plus, il fallait que ce soit synchro, c'est-à-dire d'une histoire par rapport à l'autre. Hein, qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de paradoxe.
Ça me rappelle le clip de Michel Gondry de Cibo Matto avec West Vert du Sucre. Il y a les deux japonaises en fait.
Qui habitent
ensemble et le clip en fait est construit en miroir.
L'image est coupée en deux et en fait.
Qui est à l'envers et l'autre qui est à l'endroit. Mm-hmm. Et après, ouais. Enfin bref, ça me rappelle ça.
Ouais.
C'est le même principe en fait. À peu près.
Bon, pour conclure, je dirais que c'est une BD qui est assez agréable à lire. Hein, disons, même pour un mec, oui, justement. Quoi. Les mecs sont quand même partie prenante dedans. Hein. C'est quand même. Il y a beaucoup de descriptions de mecs en fait là-dedans, mais qui sont le fait d'un point de vue, on va dire, féminin, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même l'un des deux auteurs qui est masculin. Hein, donc, ça fonctionne bien, c'est pas mal, c'est sympa. Quoi. Mais enfin bon, ça restera pas la BD de l'année non plus. Ça, c'est très clair. Donc, ça s'appelle Pink Daiquiri de Abar, Thierry et Grazzini et Bax. Hein, mais il faut retourner le truc pour les deux dessinatrices.
Et c'est sorti il y a longtemps, cette année ?
Ça vient de sortir. Hein, c'est carrément même en devanture de certains magasins de bande dessinée.
Qu'on ne nommera pas.
Et c'est sorti chez Le Lombard.
Ah ben tiens, ça...
Eh ben voilà.
Et alors, il fait bien son job en chroniqueur BD. Hein.
Et alors,
même en BD européenne. Hein.
Et alors attention, quoi, parce que...
Attention. Ah oui, dédicace, hein, d'accord. Oui, ok, pas de problème.
Voilà. Petite interruption musicale, Left Field Dusted, extrait de l'album Rhythm and Stealth.
Je l'ai bien prononcé pour une fois ? Je suis pas sûr.
Vous écoutez FMR. Vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR, il est 13h21 et oh mince. Non seulement j'ai oublié le top horaire, mais j'ai aussi oublié les publicités.
Ah bah oui.
Faut bien bouffer hein.
Ah ouais.
Allons bon.
Allez,
jingle
une page pub, de pub,
jingle pub, dis-moi ce que l'on peut faire ce soir.
Radio FMR et Finger in the Noise présentent le samedi 16 février à la dernière chance, soirée Rock and Jungle. Avec Pete Weiler, Rock'n'Roll de Toulouse et Merci Tarzan, Hip Punk. Start 22h, paf 5€. La soirée Rock and Jungle à la dernière chance, c'est le samedi 16 février, en partenariat avec Radio FMR.
Tarzan va veiller sur vous maintenant. Samedi 9 février, soirée Guachafita aux connexions live 8 rue Gabriel Péri à Toulouse, qui pourrait bien se transformer en véritable rituel vaudou ou carnaval de Notting Hill, avec leurs invités les Gâteaux Preto, Moumbaton, Kuduro, Baile Funk, Tropical Bass, Cumbia, etc., etc. Ça commence à 21h et c'est 5 euros aux connexions live.
Hey, 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 Toulouse, this is Gâteaux Preto, and we are really looking forward to play at Guachafita this Saturday. Yeah, we like to party with you, so come there and see you. Salut!
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Ça faisait longtemps.
Ouais.
Donc
après une pub particulièrement inspirée.
Franchement moi j'aime bien. Bon, c'est ce soir aux connexions, hein, voilà.
Ah ouais, ça donne pas envie d'y aller.
Bah sinon il y a John Spencer Boudelouse, Explosion demain au bikini, mais j'ai pas d'annonce.
C'est demain.
C'est dommage.
C'est au bikini, donc il y a pas d'annonce.
C'est pas ce soir,
c'est demain.
C'est le 16, il y a marqué.
Oui, non, parce qu'il y a eu deux pubs.
Non, Guachapita c'est ce soir et Merci Tarzan c'est la semaine prochaine.
Non, parce qu'on vous explique, là on a terminé de parler des festivals et Thomas était très heureux et fier de nous dire c'est mon premier carton réservé. Voilà, t'es trop content, waouh. Note, je faisais aussi la pucelle la première fois que j'ai eu mon carton invitation à la remise des prix, donc.
Bref,
de la télé.
Ouais, puisqu'on a passé les Grammy Awards en plus.
Bah, pas de problème. Alors ce soir, JCVD à fond les manettes. RTL9 nous propose pour commencer à 20h40 Bloodsport.
Ah ouais.
Pour continuer par à 22h20 Cyborg. Bon.
Ouais.
Ok. Ou alors sur Ciné plus Frisson, toujours ce soir, 20h45, Mort subite de Peter Iams.
Lève la papate, like Bejan.
Loin d'être les plus mauvais.
Bah
en
oui,
plus,
hein.
La première prog que tu disais avec les deux films, c'était plutôt la période de début de Van Damme qui est pas mal.
Ouais, 87-89, pendant Mort subite 95, bon bah pas de problème. Hein. Ok. Demain, sur Paris Première à 22h, les BAFTA 2013.
C'est cérémonie british.
Yes.
Ça. En général, c'est assez punk d'ailleurs.
Ouais, faut voir. Disons qu'ils ont un choix qui est légèrement. Le choix des BAFTA, généralement, il y a toujours une ou deux surprises. Hein, c'est-à-dire que c'est bon, on va dire copie conforme à 15 jours près par rapport aux Oscars américains, c'est plus ou moins la même chose, il y a plus ou moins les mêmes nominations, on va dire, hein. Nomination du meilleur film au BAFTA,
c'est le même
Lincoln,
film qui passe,
Les Misérables,
encore.
Skyfall, les films français qui sont sélectionnés pour les BAFTA, bah, les mêmes que pour les Oscars, hein, c'est-à-dire Amour de Haneke, qui est pas un film français quoi, mais autrichien, mais bon. Mais
t'inquiète, on va le retrouver au César.
De rouille et d'os, l'un, et intouchable, normal.
Hein ? Intouchable ?
Mais oui.
Au BAFTA ?
Oui.
Mais il y a retard de.
Oui, mais le film n'est sorti que plus tard chez eux.
Ouais, mais attends, mais c'est n'importe quoi, parce qu'il y a touchable, il n'y a rien d'anglais dedans. Pourquoi les.
Non, mais c'est les films français qui sont. C'est les films étrangers.
Ah, dans
français,
les films. D'accord, ok.
Qui sont sélectionnés dans
le film. BAFTA du film étranger.
Voilà,
d'accord.
Voilà.
Okay, pardon.
Alors, par contre, ce qui est vachement bien dans les BAFTA, c'est la présentation, c'est les petits trucs qu'il y a entre et tout. C'est moins télévisé, c'est moins téléphoné que par exemple les Oscars où chaque fois qu'il y a une remise de prix, oui, je remercie ma mère et puis le bon Dieu et puis je sais pas qui encore.
Plus,
là,
c'est,
des
c'est...
fois, les mecs se laissent aller. Il y a des petits délires. Et pas forcément de la part des plus petits, quoi. C'est-à-dire des mecs qu'on connaît le moins, mais des fois, tu peux avoir un Hugh Grant qui pète les plombs en plein milieu du BAFTA. Qui va nous raconter une bonne grosse connerie, comme ça, quoi.
C'est Allez. Long.
Il y a une ambiance qui est
comme
un peu moins
César,
guindée.
On va dire
que c'est une ambiance qui est un peu moins guindée. Les gens se laissent un petit peu plus aller. Ouais. Et c'est là qu'on regrette certains présentateurs des Oscars qui avaient réussi un petit peu à révolutionner le truc. Je parle en particulier de Billy Crystal, qui lorsqu'il présentait les Oscars, c'était quand même autre chose, quoi. Au moins on se fendait la gueule, même si c'est vrai que la cérémonie est chiante, dure vachement longtemps. Mais avec des petites respirations comme ça de la part du présentateur, genre Billy Crystal, il y avait aussi Steve Martin qui l'avait fait à un moment. Il avait fait qu'un an, je crois, Steve Martin.
L'an dernier, quand même mieux, ça devait quoi. Être Eddie Murphy, mais c'était pas lui, parce que c'était produit par Brett Ratner, mais Brett Ratner avait réussi à se faire éjecter du truc. Je sais plus ce qu'il avait présenté finalement. Bon, bref.
Ça restait encore.
C'est ce soir, De Cohn au César. César, c'est ce soir, non ?
Je sais pas, peut-être. Non, je crois pas.
Non ?
Non, je crois que c'est
un peu prochain. Plus tard, ouais.
Donc c'est demain soir, hein, les BAFTA, en direct donc sur Paris Première à partir de 22h. Sinon demain, sur France 4 à 20h45, alors France 4, Public Enemies de Michael Mann.
Ouais, le meilleur.
Suivi de Predator de Mac Tiernan. Donc ça fait quand même une bonne soirée film, quoi, à mon avis.
On voit pas la thématique, mais
non,
c'est
mais il y a pas de thématique,
pas mal.
On s'en fout, quoi. Jimmy vous propose demain soir 20h45 Jackie Brown.
On en parlait la
tous les deux, on est d'accord pour dire que c'est le meilleur.
Oui, unanimité.
Ok, il y a pas de problème, quoi. Sinon sur Ciné Plus Star à 20h45, La Fureur du Juste de Eric Carson avec Chuck Norris, Karen Carlson et Lee Van Cleef. Attention, quoi, parce qu'il va se venger. Hein. Il va dégommer toute une famille de la mafia japonaise à lui tout seul. Mais c'est normal, c'est Chuck Norris. Parce qu'il se venge, c'est normal. Hein. Donc ça, c'est sur Ciné Plus Star demain soir à 20h45. Sur Ciné FX, bonne soirée hein, demain soir. Avec à 21h, Le Fils de Frankenstein de Harvey Lee en 1939 avec Bela Lugosi dans le rôle titre et Basil Rathbone. Et à 22h35, La Revanche de Frankenstein, mais là c'est déjà un film de la période de Hammer, réalisé par Terence Fisher en 1958. Pour lundi, je vous ai choisi que des super bons films. Que des super bons films, quoi. Sur D8 à 20h50, Seven de David Fincher.
Ah oui.
Sur RTL9 à 22h10, Fargo des frères Cohen.
Ouais.
Sur Sci-Fi, soirée Underworld avec les trois Underworld de la suite dans l'ordre. Dans l'ordre. Ah oui.
Qui lui aurait arrivé ?
Ah ben je sais pas.
Ah oui, Kate Beckinsale en latex.
Pour une fois, c'était pas.
J'ai regardé le premier quart d'heure du 3 là, de Soulèvement des Lycans et
ben
tout.
C'est plus Kate Beckinsale, c'est Rona Mitra.
Ouais, mais ça fait rien parce que ça dépote à fond hein, quand même.
Ah oui,
tu comprends que ce soit moins 16 à la télé. Hein.
Ah oui, quand même.
Parce que ça charque, hein, mine d'accord. De rien, ça charque. Hein. Sinon, toujours lundi sur Ciné Plus Star, alors là, c'est la soirée qui tue quand même, quoi. Avec à 20h45 Halloween de Carpenter, ouf, suivi à 22h15 de Carrie de Brian De Palma.
Ouf. Ah oui, d'accord, oui. Le slasher dans la période dorée. Ouais.
On charge la mule, ouais. Hein, y a pas de problème, mais on est d'accord. Et sur TCM, un film qui est pas très connu, mais qui est quand même un excellent film de guerre de Samuel Fuller en 79, Au-delà de la gloire, avec Lee Marvin, Mark Hamill et Robert Carradine.
Oh. Ah ouais, quand même.
Ouais. Et c'est un film qui a été scénarisé également par Fuller, hein, qui a réalisé, scénarisé, et qui écrit d'après ses mémoires, parce que Fuller était un des jeunes cinéastes à l'époque qui ont suivi le débarquement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec d'autres, avec George Stevens, je sais pas, il y avait William Wyler, enfin il y avait plein de super grands réalisateurs qui ont suivi l'effort de guerre en allant tourner, en allant filmer les soldats sur les lieux des combats. Et Fuller, en 79, a décidé d'en faire un film, ses souvenirs par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et au quotidien des soldats. Il n'y a pas uniquement que des scènes de combat, de bataille, il y a également le quotidien, quoi. Les mecs qui sont obligés de se taper des kilomètres à pied parce que il n'y a plus d'essence, quoi, pour les bagnoles, parce que les camions-citernes, quoi, ils sont bloqués, enfin bon, des conneries, quoi, des trucs que tu mets pas dans un film, quoi, t'en as rien à foutre de la précision temporelle, quoi. Mais là, ça raconte bien cette histoire. C'est donc Au-delà de la gloire, c'est sur TCM lundi à 20h40. Mardi, sur NT1 à 20h45, Mookie de Hervé Palud avec Jacques Villeray.
Heureusement qu'il a dit avant que des bons films. Hein.
Non, mais ça, c'était les bons films lundi.
Ah,
lundi.
Ah, j'ai eu peur.
Lundi. Parce que mardi, ça se gâte. Quoi. Donc, il y a Mookie. Il y a également sur D17. Opération Matchbox.
Ça fait
Colin
des années
Teague.
Qu'on passe ce jingle, mais ça nous fait toujours autant rien.
Opération Matchbox de Colin Teague avec un casting qui tue de la mort. Billy Zane, Michael Madsen, David Ginola et Laurence Fox.
C'est quoi ? Mais quoi ?
Alors Lawrence Fox, c'est le mec qui est avec l'inspecteur Lewis dans la nouvelle série Inspecteur Lewis, qui d'ailleurs recommence avec un inédit demain soir sur France 3. Donc c'est Opération Matchbox. Également une histoire qui se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sur TV Braze, Créance de sang de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood tiré de l'excellent bouquin de Michael Connelly avec Anna de Jesus, Jeff Daniels et Angelica Houston. Et que si vous n'avez pas envie de le voir, eh ben, je peux vous dire que c'est Jeff Daniels le coupable. Voilà, comme
oh
ça, c'est
le salaud. Il lui arrive quoi du sport?
D'accord, il est fou.
Ben non, mais bon, le film date de 2002, alors en 11 ans, si vous n'avez pas encore été foutu de le voir,
oui, moi je l'ai vu,
c'est
moi.
Que vous êtes vraiment des nuls.
Oui, puis en plus, on le voit arriver avec ses gros sabots.
On le voit arriver avec ses gros sabots, alors que c'est quand même vachement plus subtil dans le bouquin.
Ah, c'est une vengeance
C'est
d'accord.
Ça le truc.
C'est comme...
J'en veux à Clint Eastwood pour ça, quoi, tu vois. Là, j'en veux beaucoup, parce que d'un excellent bouquin, il en a fait un film... moyen.
Ouais, série B.
Moyen, on va dire, quoi. Alors que Mystic River, quoi, il en fait un super film. Tu vois, c'est. Bon, ok. Toujours mardi sur OCS Ciné Géant, une soirée Clouseau avec tout d'abord Le Salaire de la Peur, Vanel, Montand, Lino.
Ben ouais. Très bon, un noir et blanc super, des scènes écrasantes de chaleur.
Le film de tension par excellence.
Il y a eu un remake américain, il pète pas aussi
par
bien.
Par William Friedkin, Le Convoi de la Peur.
Le Convoi de la Peur, ouais, mais bon.
Parce que là, c'est vraiment c'est les montagnes rocailleuses, arides. Ouf.
Ah ben là, c'est tu apprends comment transporter de la nitro, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et le film suivant, toujours de Clouseau, t'apprends comment descendre quelqu'un qui est proche de toi, parce que t'en as marre de sa gueule. C'est Les Diaboliques.
Ah oui.
Eh oui. Mercredi.
C'est une spéciale Saint-Valentin, c'est pas possible.
Mercredi, j'y ai pensé, puis je me suis dit non, quand même, quoi. Je suis pensé à faire un spécial femme, et je me suis dit bon, on va prendre le pas et tout, on va faire ça un mois avant, comme ça on sera débarrassé.
D'accord.
Bon, quoi. Okay. Mercredi, RTL 9 vous propose Big Fish de Tim Burton, pas mal, sympa, quoi. Mais par contre, si vous aimez pas Big Fish, vous avez bien raison. À 22h sur Ciné Plus Classique, un excellent Orson Welles. Moi, je trouve, c'est mon avis vraiment personnel, mais je trouve que Monsieur Arkadine et celui qu'il avait fait avant, je me rappelle jamais le truc, mais la dynastie
des,
ou un
la
truc
splendeur
comme,
des Amberson.
La splendeur des Amberson, ce sont des films qui sont supérieurs à Citizen Kane pour moi. C'est simple, c'est net, c'est précis. Ok, Monsieur Arkadine, qui est d'ailleurs, on va dire un petit peu une ressucée de Citizen Kane, hein, globalement, quoi. On va dire l'histoire est globalement la même, quoi. Mais la forme est complètement différente. Avec donc Orson Welles, Robert Arden, Paolo Mori, Hakim Tamirov, Michael Redgrave, quoi. Mais le film, ça c'est du cinéma, quoi. Jeudi sur Paris Première, le Dirty Dozen de Robert Aldrich.
Ah oui, bon, grand classique,
normal,
Les Douze Salopards. Hein.
Et sur 13e rue, Trafic Mortel d'Isaac Fiorentin avec JCVD et Scott Adkins. Le film, alors c'est un DTV, mais franchement,
on précise, c'est jamais sorti au cinéma, personne n'en a voulu, direct ou vidéo,
direct
mais la vidéo n'existe plus, donc
non, mais il est pas trop mal, quoi, franchement, quoi. Disons, dans la tonne de bouse que JCVD nous sort depuis, on va dire, une dizaine d'années, tranquille, hein, à raison d'un ou deux films par an, tranquille, si pas trois, eh ben on peut dire que celui-là est pas trop mal. Ah, il est pas trop mal.
Non.
Franchement,
c'est du sport. Alors, c'est... N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
Et ce Trafic Mortel est suivi toujours sur 13e rue jeudi prochain à 22h20 par Shoot the Killer de William Kaufman avec Dolph Lundgren. Ouais, mais celui-là est très récent, il date de 2012. Il y a également Cuba Gooding Jr. et Louis Mandylor.
Alors c'est marrant parce que hasard du casting, tu as cité le casting du dernier Universal Soldier avec Scott Adkins, JCVD, Dolph Lundgren. D'ailleurs, je suis sur Facebook, il y avait Dolph Lundgren qui arrête pas de parler du dernier Universal Soldier. Et puis un commentaire d'un gars en anglais qui lui parle, qui est fan de Dolph, et lui dit sorry Dolph. Alors, bon, en français ça donne d'habitude c'est génial, mais là c'est ce piece of shit.
Ah, le pauvre.
Peut-être pas tant que le film dont je vais vous parler qui passe sur Syfy le jeudi, le film de Syfy le jeudi soir, c'est quand même un monument qu'il faut regarder de temps en temps. Alors j'ai réussi à regarder le film avec Corinne Nemec dont je vous avais parlé là, l'histoire de Charcosaure, je sais pas quoi là, hein, le crocodile requin là, je sais pas quoi. Et Mais il a changé, il a maigri. Bon, il est toujours aussi costaud, mais il a maigri du visage et tout, je sais pas. On se dit peut-être qu'il est malade, non, je sais pas. Il a une tête bizarre par rapport à la tête qu'il avait il y a 2 ans,
oui,
quand il était venu à Toulouse. Et je sais pas quoi, je sais pas quoi.
Et c'est un film qui a été tourné après ?
Ah oui, c'est un film qui est très récent, hein. C'est un film de 2012, hein. C'est très très d'accord, récent, l'année dernière, bon, hein, de toute façon.
Donc toi, enfin, tu regardes ce genre de film, non seulement tu le chroniques.
Bah, il faut regarder de temps en temps, quoi, quand même.
Charles
alors, Ozor. Celui de demain, de jeudi prochain, s'appelle Alien Tornado, de Jeff Burr, également très récent, 2012, l'année dernière.
Tu apprends que le cheval de Zorro était un alien.
Non, Stacy Asaro, Jeff Fahey. Il y a Jeff Fahey dedans, les gars. Hein, Carrie Vurer, David Jensen, merde, quoi.
Ah oui.
Hein, alors, bah, ça raconte l'histoire d'un type et de sa famille, hein, qui sont plus ou moins sans abri, parce que bah, y a une petite tempête qui est passée par là et qui a tout ravagé dans le coin. Et ils vont se dire, mais merde, putain, c'est pas normal, quoi. Et c'est normal que ce soit pas normal, parce qu'en fait, la tempête,
elle vient de Mars.
Elle a été instillée par des extraterrestres.
Est-ce que
c'est
peux...
Alien Tornado, donc sur Sci-Fi jeudi prochain, 20h45. Mais si vous préférez, regardez.
Je crois que le vendredi, on atteint le fond du fond, mais je te laisse continuer.
Et si vous préférez regarder quelque chose de plus regardable, on va dire, Ciné Plus Star, en même temps à 20h45, c'est L'Étoile Noire de John Carpenter.
Oui. Très amusant. Dark Star est très drôle.
Ouais. Ou alors sur FX à 21h, toujours jeudi prochain, Mount West de Michael Crichton avec Yul Brynner, James Brolin, le papa de Josh. C'est bien, quoi, ça vaut le coup.
Je tiens à signaler pour les fans du design de l'Étoile Noire et tout ça, il y a eu un projet qu'on avait suivi qui s'appelait C'est The Movie, un film amateur dont l'idée était d'être intégralement réalisé avec des effets traditionnels. Ils ont même eu l'aide du mec qui avait fait les effets sur les premiers Star Wars et tout ça. Il est sorti normalement cette semaine sur le net, donc il faut qu'on se le chope et qu'on se le regarde. Parce que quand même, ils nous avaient laissé une super impression.
Oui.
Ouais.
Ok, on termine avec vendredi.
Alors vendredi, je commence juste une chose. C'est d'après vous, quelle est l'émission qui hier a fait la plus grosse audience ?
Mais non.
Splash.
Mais non.
Et ouais. 26% d'audience, 6 200 000 personnes en deuxième position. En deuxième position, NCIS.
Oh, mais tout ça pour voir Jean-Pascal qui revient voilà, avec un slip.
Ah non, mais c'est surtout pour voir Califano faire des plats. ça valait son pesant de cacahuètes.
Ce qui fait
le
plus
faire de la GRS aussi. Califano qui fait de la GRS avec des petites nanas qui doivent pas mesurer plus d'un mètre trente.
Ce qui fait le plus beau plat jamais vu pour les victoires de la musique. Seulement 2 millions de téléspectateurs, c'était pas triste.
La victoire de la musique classique ?
Non, les victoires de la musique tout court.
Les vraies victoires de la musique.
Ah, mais c'était hier ?
Ouais, c'était hier.
Il y a C2C qui a fait juste pris 4 victoires. Salut les gars. Et toutes les vieilles stars françaises de la chanson qui sont tous reparties bredouilles.
Bah, c'est pas plus mal en fait.
C'est pas trop tôt que. Mais c'est un peu tard maintenant. L'ambiance est plombée déjà. Plus personne n'a envie de regarder les victoires.
Je savais même pas qu'il y avait les victoires hier.
Ça a été un palmarès qui du coup était intéressant. Enfin.
Ah
ouais, bon. Enfin bon.
Enfin. 20 ans trop tard.
C'est quand même le groupe qui a sorti juste 4 morceaux et
juste le truc de tueur, voilà.
Ouais, enfin bon, Loudoyon, je sais pas quoi, tu vois. Franchement.
Si.
À choisir entre Françoise Hardy et Loudoyon, moi.
Camille, c'est pas trop mal, non.
Bon,
il y avait
Camille, d'accord.
Mal, bah, Camille, chaque fois qu'elle sort un truc, elle est là-bas, donc. Bon, bref.
Bref, vendredi à la télé, Canal+, le film que j'étais allé voir au cinéma, que je vous ai chroniqué, que vous aviez fait de la bataille navale pendant tout le temps.
Ah oui,
Battleship.
Rihanna.
Rihanna, Liam Neeson, Taylor Kitsch.
C'est ça leur séance blockbuster, comme ils disent.
Non, ouais, vendredi, c'est...
Bah ouais, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Ah bah oui.
À la place, ils auraient mieux fait de mettre du foot. Hein.
Bah, y a pas
mais le foot, ils peuvent plus.
J'aurais jamais entendu.
Tout est racheté par les Qataris.
Sur RTL9, toujours vendredi prochain, un film humoristique, moi j'aime bien, quoi, Comme Chien et Chat de Laurence Gutmann. Je sais pas si tu l'avais vu ce film avec Jeff Goldblum et Elizabeth Perkins.
Je l'avais vu, il y a Uma Thurman aussi dedans.
Dans le 2 peut-être alors.
Je connais André Gutmann, mais il me fait pas rire.
Ah mais oui, Comme Chien et Chat, mais ça avec les animaux,
oui.
Ça.
Oui.
Et puis les chats sont les méchants
et les chiens sont les gentils.
Oui, d'accord, je vois.
Et puis Goldblum et Elizabeth Perkins sont juste là pour dire qu'il y a quand même des humains, quoi, qui élèvent.
Oui. Et puis les chats, c'est des comploteurs. Ouais, d'accord.
Avec le chat blanc qui est le patron là.
Oui,
le boss,
comme
là.
Ouais. le chat de Blofeld.
Voilà, voilà. Oh, yes. Donc ça, c'est sur RTL 9 vendredi prochain et sur Ciné Plus Premier également vendredi prochain. On va dire que c'est le film qui l'a fait découvrir, bien qu'il soit déjà assez âgé à l'époque où il avait tourné le film en 2005, Daniel Craig dans Layer Cake de Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, qu'on a vu après par la suite, nous faire des kick-ass. Donc,
du X-Men Origins.
Ouais, ouais. Donc, bien quoi. Avec Daniel Craig, donc Cole Miney et Tom Hardy. Quoi. Bon, hein,
ah oui, ouais, d'accord.
Casting,
okay.
Quoi.
Oh, okay.
Je dis, ok, c'est bon, quoi. T'as compris pourquoi le film, les mecs, ils l'aiment bien. Quoi. Sinon, vous n'êtes pas sans savoir, certainement, si vous ouvrez votre poste de radio ou si vous allumez votre télé, que il y a le prochain, il y a un film qui s'appelle Hitchcock qui va nous sortir.
Oui, oui, avec le club de Tchernia.
Il est sorti depuis mercredi.
Il
a même fait un excellent démarrage.
D'ailleurs, il y a un buzz sur la toile où il y a des gens qui disent qu'il ressemble plus à Tchernia qu'à Hitchcock, d'ailleurs.
C'est pas faux. C'est pas faux, quoi. Ou à Peter Boyle.
Ça faisait longtemps, tiens.
À Peter Boyle, si Peter Boyle était vivant, c'est lui qui aurait dû jouer le rôle, en fait, quoi. Parce que Peter Boyle a quand même une ressemblance. Mmh. Alors, du coup, bah, il y a quand même quelques petites rétrospectives Hitchcock. Hitchcock, bon, ça, on a l'habitude. Mais là, Polar nous fait un Hitchcock par jour à partir de demain.
Ah, bien.
Hein, donc, c'est que des. Enfin, on avait dit, j'allais dire, c'est que des classiques. Mais enfin, bon, tous les Hitchcock, pratiquement, c'est des classiques. Ouais, ouais. Quoi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, de Hitchcock merdique, on va dire. Quoi. Il y a peut-être des Hitchcock qui sont mineurs, quoi. Qui sont un petit peu plus diffus quoi dans l'impression qu'ils nous laissent, mais bon généralement quoi c'est quand même des très bons films. Demain à 20, alors tous les soirs c'est à 21h. Demain c'est Mais qui a tué Harry avec John Forsythe, Shirley MacLaine en 55. Lundi sur Froide avec James Stewart, Vertigo hein, le titre original, avec Kim Novak, Barbara Gay, Bel Geddes, la maman de J.R. dans Dallas. Eh oui. Ça, c'était en 58. Mardi, Le Rideau Déchiré en 66 avec Paul Newman et Julian Drews. Ça part. Voilà, quand on parle de films qui sont un peu mineurs dans l'œuvre d'Hitchcock et tout, Le Rideau Déchiré en fait partie, quoi. Fenêtre sur cour, c'est mercredi avec James Stewart, Grace Kelly, Raymond Burr. Frenzy, c'est jeudi avec John Finch, Barbara Eliot. Et enfin, vendredi, La Corde. Donc, le film le plus ancien hein, de cette liste, hein, car il est de 48 avec Farley Granger. Et un jeune James Stewart.
La voilà. Corde, c'est le plan séquence.
Ouais.
Ouais.
Voilà. Alors voilà, ça c'est la semaine Hitchcock. Donc sur Polar, je pense qu'il y en aura d'autres à venir de toute façon. Quoi, parce que bon, bah, la liste n'est pas définitive.
Loin de là.
Vous écoutez Radio FMRC 89.1. C'est déjà la fin du supplément week-end. Un supplément week-end, ma foi, c'est dense. Il est 13h45, Thomas. Ouais. Il y en a qui ont loupé quelque chose comme pratiquement 105 minutes d'émission, quoi.
Ben ouais, écoute, ils ont loupé donc un débrief angoumoisin, une polémique autour de Christophe Willem, une polémique autour de la ministre, la série... Ah ben non, pas la série, l'interview de Tatsushi Kaneko, suivi de la série Soil et ses belles cochonneries, un upgrade de canapé... Oh pas des gros des japonais affamés, un guide parisien, une BD avec des filles qu'on retourne sauvagement, enfin la BD pas les filles, une BD avec pas des grosses connes mais bon, des films qui charclent, du spoil honteux, de la tempête alien, des chats contre des chiens, un vieux jeune premier et Pierre Tchernia.
Je sais plus quoi dire après ça.
Non, d'un magazine polémiste, vous avez manqué tout ça. Heureusement, vous pouvez réécouter l'émission sur le site web supermonweekend.fr ou sur radio-fmr.net. Oui, tu veux faire la suite ?
Oui, aussi, vous pouvez bien évidemment écouter, nous écrire, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas, cette semaine, Radio FMR est partenaire pendant trois semaines, du festival...
Deux mois
Made in Asia, donc profitez-en, vous restez sur l'écoute de notre antenne. Vous écoutez FMR, vous êtes sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. La semaine prochaine, je ne sais même pas ce qu'on a prévu.
Eh bien, la semaine prochaine, si tu es d'accord, nous parlerons de la guerre d'Algérie.
Eh bien, soit. Je crois que c'est le 17 février, si je me trompe, la déclaration d'indépendance. 17 février 63.
Oh là là, oh,
hey. Non, je ne sais plus là.
Non, 62.
62, oui.
Oui, 62, oui.
Ah, pardon, non, excusez-moi. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur.
Avril,
non,
ou...
mais ça m'a. Je ne sais plus.
Ou
Wikipédia.
Mars ou avril.
Je sais pas, mais en tout cas, je suis d'une inculture crasse.
Le 19 mars.
Bref, si vous voulez continuer à avoir une inculture crasse et à essayer de presque la soigner, lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics, regardez des séries télé, regardez un peu trop la télé, ça ne vous changera pas. Bonsoir et bien bonsoir et merci de votre écoute et de votre soutien. Merci pour toutes les blagues qu'on a vues sur Twitter quand même.
Ah bon,
pendant
il y en a
une. Il y en a une belle. Attends, là j'étais en train de répondre à la mairie qui disait qu'il y a une inauguration d'une salle Saint-Simon à Toulouse. Je savais pas que François Simon était mort. Attends, la blague que j'ai vue, voilà, il fait de la BD Christophe Willem, la nouvelle star mène à tout, chapeau l'artiste. Black Olyphant. Merci, ciao, bye bye.
Voilà, vite fait, j'ai oublié de vous dire que...
Il y a aussi Thierry Do Espirito qui me dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, la bio de Willem, c'est franchement de à chier.
Non, j'ai oublié de vous dire vite fait qu'il y a un salon de la BD et du disque à Cahors, c'est ce week-end, hein, c'est oui, aujourd'hui pardon. Et demain, quoi.
Exact. N'oubliez pas, vous êtes sur FMR, c'est une radio alternative, un coup ça marche, un coup ça ne marche
pas.
Voilà, ciao, bye bye. Du sport de suite.